Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
14h01, dans un instant, c'est l'Intégral Sport qui prend l'antenne, le live, l'actu sportive de la semaine, du week-end et des jours à venir. Mais avant ça, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Laurent, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet.
RMC.
Ils refusent les bassines, ces grands cratères qui stockent l'eau pour l'agriculture. Manifestation écologiste aujourd'hui au cœur des Deux-Sèvres, à Sainte-Soline. Une manifestation pourtant interdite par la préfète Emmanuelle Dubé. Elle nous dit pourquoi.
Dont on dispose ce matin confirme que les individus qui sont présents sur le site sont déterminés et violents. La manifestation qu'ils souhaitent organiser malgré l'interdiction risque donc d'être très violente. Et nous ne tolérerons pas qu'un cortège revendicatif ou que des groupes se constituent pour s'approcher du chantier de la réserve de substitution. J'appelle chacun à avoir un comportement responsable, à prendre ses responsabilités et à ne pas braver l'arrêté d'interdiction de manifester qui est en vigueur à Sainte-Soline.
1500 gendarmes sont mobilisés pour l'instant, aucun incident. Le cri d'alarme des ONG entendu par le gouvernement, il renonce à réduire le nombre de places en hébergement d'urgence pour les sans-abri. Le budget de l'an prochain a été augmenté, notamment pour garantir qu'aucun enfant ne sera à la rue. Attaque de drones contre la marine russe dans le port de Sébastopol en Crimée. L'armée de Poutine accuse l'Ukraine, mais aussi la Grande-Bretagne, qui selon elle aurait formé les pilotes de drones. Attention, cette nuit on va passer à l'heure d'hiver, il faudra reculer nos montres, à 3h, il sera 2h. Quintet plus à Compiègne cet après-midi. Favori de la Dream Team Course RMC, l'As Saint-Père. Outsider le 9, Hopi du matin, l'As et le 9. Vous êtes sur RMC, 14h03. C'est l'Intégral Sport avec Simon Dutin.
RMC.
Les amis, c'est Alexandre Ruiz. Si vous êtes fan de la Ligue 1 Uber Eats, téléchargez l'application Free Ligue 1. Car lors de chaque journée de championnat, quel que soit votre opérateur, vous avez la possibilité de voir sur vos téléphones, en quasi-direct, tous les buts des 10 matchs. Et ensuite, tous les résumés de chaque rencontre quelques minutes après le coup de sifflet final. Et ça, c'est gratuit sur l'application Free Ligue 1. L'appli est donc disponible tout opérateur gratuitement sur mobile Android et iOS. Accès libre aux rubriques buts et résumés hors coût de connexion. Offre soumise à condition. Rendez-vous sur free.fr.
Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous ce beau-frère qui nous dit
« Une merveille !»
Car le gâteau breton Pays Gourmand est en ce moment chez Aldi à 3,29€ les 400 grammes. Oui, ce « Une merveille !» qui vous permettrait de retrouver le bon goût de nos régions sans même aller voir les Bretons. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
8,23€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Weldom, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage en 2023.
Avec ma nouvelle étagère, quand tous mes outils c'est super, question motivation, je suis à fond les boulons. Wouhou!
Organiser le garage, ça, c'est fait. Chez Weldom jusqu'au 12 novembre, l'étagère établie Strong galvanisée avec ses 5 tablettes en MDF est à seulement 49,95€. Weldom, bricoler, jardiner, décorer, dans la limite des stocks disponibles.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Didier.
Qui, moi?
Eh oui, aujourd'hui, pendant le top rayon, pour tout achat sur le rayon traiteur surgelé de marque Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé.
Un bon d'achat de 30%? Voilà une offre complètement givrée.
Netto, on gagne tous à payer moins cher.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Mais où peut-on trouver des produits U à moins 20% en Eurocarte U?
Chez ma voisine, il y en a partout et ça change tous les mois. Mais c'est quoi son secret?
Ça commence par carte et ça finit par U.
Pour tous les détenteurs de la carte U, rendez-vous dans les magasins U et sur courseu.com pour profiter de moins 20% en Eurocarte U sur une sélection de plus de 100 produits U. U, commerçant autrement.
Réservé aux clients carte U, valable au cours du mois, hors catégorie frais métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée. Hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles. Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants. Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com.
Galerie Lafayette. Coucou chérie. Bon, je n'ai pas oublié le déjeuner chez tes parents, mais figure-toi qu'en ce moment, c'est le retour des 3J aux Galeries Lafayette. Moins 30% et plus sur une sélection d'articles jusqu'au 1er novembre seulement. Oh, ça serait tellement dommage de manquer ça.
Voir modalités en magasin et sur galerielafayette.com.
Galeries Lafayette.
Bonjour, je m'appelle Bastien et je suis conseiller EDF. En ce moment, beaucoup de professionnels me demandent comment faire des économies d'énergie. Ils n'ont pas tous les mêmes leviers d'action, alors on en discute en fonction de leur métier. Par exemple, j'ai conseillé à un restaurateur de vérifier l'état de ses congélateurs, car 5 mm de givre augmente la consommation jusqu'à 30%.
EDF, source ADEME, plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, vous connaissez la nouvelle?
Non, je sèche, c'est quoi?
C'est quoi? Bah c'est les noix sèches. En ce moment chez Lidl, le kilo de noix sèche est à
4,49€. 4,49€ le kilo de noix? Mais je crois pas. C'est encore un prix à la noix ça.
Ah non non, c'est le vrai prix. Et origine France les noix, hein. Oh c'est vraiment les rois de la noix, hein. J'en prends.
Toi tu cherches des noix.
Des quoi?
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre programme de fidélité. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Le dimanche, entre 19h et 20h, c'est Bartoli Time.
Et c'est fini sur un smash arrière. Magnifique Djokovic. Il décroche son 9e titre, totalement intouchable. Match, c'est fini. Novak Djokovic, c'est gagné pour Novak Djokovic. Il conforte sa place de meilleur mondial.
Demain, Novak Djokovic est l'invité exceptionnel de Bartoli Time entre 19h et 20h.
Alors, à demain, dès 19h sur RMC.
Novak Djokovic.
RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Salut tout le monde, Intégral Sport sur RMC, votre rendez-vous chaque week-end, l'actu de la semaine, du week-end et des jours, des heures d'avenir, sans oublier le live évidemment. On est ensemble en direct jusqu'à 16h, la Coupe de France, 7e tour avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, retour et projection sur les rencontres de la 13e journée de Ligue 1, le PSG et l'OM qui jouent ce samedi la 9e journée de Top 14, Castres-Clermont à partir de 15h, sans oublier les filles du 15 de France qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby, le Quintet, 2h qui ne manque pas de sel. L'Intégral Sport démarre tout de suite sur RMC. Et avec nous pendant 2 heures, Valentin Jamin qui va nous faire suivre en fil rouge l'évolution des scores parce que, Valentin, c'est le début du 7e tour de la Coupe de France. Exactement. Avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2.
De Ligue 2, de 2e division et 3 clubs de Ligue 2 sont sur le pont d'ailleurs à partir de 14h. C'est parti par exemple entre les Ulis, club de National 3, 5e division et le Paris FC, une sorte de derby pour PFC donc, qui se déplace sur la pelouse des Ulis, 0-0. Mérignac, club de Régional 1. Donc
c'est chez moi ça.
C'est chez toi effectivement, 6e division qui reçoit un club de Ligue 2 également, c'est Niort. Sochaux accueille Hombourg-Haut, club de Régional 2, donc 7e division. Hombourg-Haut, ça parle peut-être aux suiveurs de la Coupe de France puisque ça avait été le petit pousset de l'édition 2020. Ils étaient allés jusqu'en 32e de finale quand même. Et puis Oissel qui reçoit Poissy, un club de N3 qui reçoit un club de N2. Luxiana, un club de N3 qui reçoit Drancy, un club de la même division. Saint-Quentin dans l'Aisne de 5e division reçoit Yangen Sport, c'est un club de Nouvelle-Calédonie. Et puis dernier match qui a débuté à 14h, un club de R1, Velay, qui reçoit Mâcon, un club de National 3.
Voilà, des affiches qui démarrent à 14h, des affiches qui démarreront également à 15h. Tu es là, tu nous fais signe dès que il y a des résultats intéressants. Évidemment, on fera un point régulier avec toi. 7e tour, du coup, je vous le disais, de cette Coupe de France de football. Avant ça, c'est la promesse dans l'Intégral Sport. Hein, on se retourne un petit peu sur les événements sportifs du week-end. C'était très tôt ce matin, c'était attendu en début de compétition. Espérer avant la rencontre, saluer depuis ce matin l'équipe de France féminine de rugby. Elle s'est qualifiée ce matin pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Les Françaises ont battu, alors très tôt pour nous, hein, le 15 d'Italie, victoire 39-3. Plus difficile à obtenir que ce que le score suggère. Un triplé de l'ailière Johanna Grisé, un essai de pénalité et un de Laura Touillet. Les Bleus s'offrent donc le droit de défier la Nouvelle-Zélande le week-end prochain. Le pays hôte qui a de son côté marché sur le pays de Galles, victoire 55-3. Demain, les deux autres affiches de ces quarts mettent aux prises l'Angleterre à l'Australie et le Canada aux États-Unis. Avant de débriefer cette rencontre avec deux spécialistes dont je vous garde secrète l'identité parce que c'était une petite surprise pour vous les auditeurs, on va retrouver Gauthier Baudin, envoyé spécial RMC au pays du long nuage blanc. Gauthier aux côtés d'une capitaine forcément heureuse.
Avec Gaëlle Hermé, la capitaine du 15 de France, sur RMC, après cette victoire contre l'Italie, Gaëlle, c'est quoi votre premier sentiment qui vous vient à l'esprit maintenant là ?
Bah, hyper heureuse d'atteindre cette demi-finale. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Et aujourd'hui, en tout cas, on savoure vraiment de s'être ouvert cette porte-là.
Vous avez fait une très belle performance offensive. C'était un des buts quand même de ce match, de se rassurer en attaque. Est-ce que pour vous, ça a été le cas ?
Ouais, complètement. J'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est même plus se rassurer, c'est se lâcher, tout simplement. Mais encore plus le week-end prochain où on va jouer une demi-finale. Ben là, il faudra être, bien sûr, il faudra être précise, mais il faudra encore lâcher les chevaux comme on a fait aujourd'hui. On a eu encore cette défense dans laquelle on encaisse zéro essai. Donc ça, c'est encore hyper positif. Et derrière, offensivement, notamment en deuxième mi-temps, on se lâche énormément à l'image des nombreux essais mis derrière.
Vous avez parlé de la défense. On a l'impression que tout vous a réussi aujourd'hui. Et en défense, ça a été presque la perfection.
Ouais. Enfin, je sais pas si c'est la perfection, et je pense pas, parce qu'il y a quand même des petites imprécisions et des petits détails à régler, que ce soit en conquête, que ce soit dans le jeu courant. Voilà, mais ça, on va le bosser. Je suis pas inquiète cette semaine, au contraire. Mais je pense que notre défense, on sait que c'est vraiment notre point fort. On sait que c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on capitalise beaucoup, parce que c'est important pour nous. C'est ce qui nous permet aussi de prendre l'avantage, l'ascendance psychologique aussi sur les équipes quand on a une défense qui rush fort, qui monte fort, qui plaque bas. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Et avec cette défense-là, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est l'image qu'on montre, sans se déconnecter les unes des autres, vraiment rester ensemble et rester connectés. Pour nous, c'est vraiment le mot d'ordre. Et aujourd'hui, on a continué à le faire, avec en plus des opportunités offensivement, avec beaucoup plus la main sur le ballon aujourd'hui.
Gaël Hermé sur RMC, on vous a vu très remonté en échauffement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour être aussi remonté ?
Je saurais même plus, tellement c'est le coup de l'émotion, je saurais même plus exactement ce qui a été dit, mais c'est surtout que c'était un quart de finale, qu'aujourd'hui on n'avait pas envie que l'histoire s'arrête ici, qu'on était en train d'écrire le dernier chapitre du livre qu'on a commencé depuis des années maintenant et des mois, et que on avait vraiment à cœur de faire une grosse performance, et puis que surtout que si on avait à un moment donné des moments un peu de doute ou quoi que ce soit, je pense qu'il y avait mille raisons de relever la tête, que ce soit par rapport aux filles blessées qui nous ont quittées, je pense à Loulou, je pense à Mélie, à nos familles qui arrivent aussi la semaine prochaine, à ce groupe qui s'est construit et qui travaille dur pour atteindre les portes de cette finale. Donc je pense que c'est tout ça, beaucoup d'émotions c'est des matchs qui sont en jeu. On le sait, il y a eu peut-être aussi un peu de pression peut-être aussi en début du match de ce quart de finale là, mais je pense que au fur et à mesure du match on a réussi à se lâcher et à aller chercher des choses offensives.
Vous avez jamais eu le doute dans ce match au final?
Non, jamais. Même quand on rentre dans le vestiaire, qu'il n'y a que 10 à 3 à la mi-temps, même si c'est une première mi-temps où on marque très vite et derrière on n'arrive pas à remarquer, il y a des imprécisions et tout ça, à aucun moment on a senti le groupe inquiet. Et je pense que ça, c'est vraiment un réel cap, c'est une réelle force aussi de ce groupe qui a vraiment pris en maturité sur ça. De ne pas se sentir en danger, d'être vraiment sereine et d'être sûre de ses forces. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec une défense comme ça, forcément, on est presque jamais inquiété, entre guillemets. Et je pense que c'est sur ça aussi sur quoi on s'appuie pour justement être sereine, cette défense-là.
La semaine prochaine, l'Eden Park, très probablement les Black Ferns, ça reste quand même une affiche de rêve.
Ouais, complètement. Déjà, je pense que tout simplement de jouer à l'Eden Park et puis de jouer contre la nation qui défend ses couleurs et son pays ici, je pense que ça risque d'être incroyable, et il va falloir qu'on travaille aussi sur tout le contexte du match. Parce qu'on sait qu'il y aura tout un pays qui sera pas forcément contre nous, mais qui sera pour l'équipe adverse. Donc pour ça, nous, il faudra qu'on le prépare en amont, qu'on travaille bien sur ça, et surtout qu'on se resserre entre nous, tout simplement, parce que ce sera les 15 joueurs sur le terrain qui feront la différence.
Merci Gaël.
Gaël Hermé, donc la capitaine du 15 de France féminin, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après sa victoire ce matin 39-3 face à l'Italie. Elle était au micro RMC de Gauthier Baudin, notre envoyé spécial. Pour débriefer cette rencontre avec vous les auditeurs dans l'Intégral Sport, bande de petits vénards, non pas un, mais deux spécialistes rugby. Un demi-spécialiste, Dom Charvet, de notre Dream Team.
Il y a surtout Pierre Amiche.
Et l'immense Pierre Amiche. Bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, Simon.
C'est vrai, moi tous les deux, c'est vrai que ça fait un petit moment également.
Au moins deux heures, bien tassé.
Oh, ça vient, on se croise, c'est la vie à RMC, on adore ça. Alors messieurs, je le disais dans mon petit chapeau tout à l'heure, elle était attendue. Que serait-on en train de dire si les Bleus ne s'étaient pas qualifiés pour ces demi-finales? Mais bon, contrat rempli pour les Bleus. Pierre, victoire 39-3, on regarde le score, on se dit bon, formalité, pourtant ça a été plus compliqué que ça n'y paraît.
Bah, deux choses. La première, c'est le résultat en lui-même. Oui, il est 39-3, c'est beau, mais c'est surtout très intéressant parce que l'équipe italienne, c'est la 5e nation mondiale, 3e nation européenne. C'est pas les premières venues. Les Italiennes nous avaient battu il y a quelques semaines en match de préparation sur 26-19. C'était à Biella. C'était un peu une petite surprise, mais c'est tout à fait logique. Et puis derrière, il y a le contenu. Le contenu a été un peu plus compliqué pour les Françaises, notamment sur les 40 premières minutes. Elles ont joué contre le vent. On a pu voir un essai magnifique, une relance de près de 60 mètres des Bleus qui sont allés marquer tout de suite au bout de 2 minutes à peine cette équipe italienne. Puis derrière, ça a été plus difficile malgré une grosse domination. Les Françaises ont notamment fait beaucoup de fautes de main dans les derniers mètres. Ça a souvent été le cas depuis le début de cette Coupe du Monde où on a senti que cette équipe de France offensivement avait parfois quelques difficultés. Et puis finalement, après l'heure de jeu, comme c'est souvent le cas dans les matchs de très haut niveau, eh ben on a vu que les Françaises ont fait une vraie différence avec notamment un essai de pénalité qui a entraîné un carton jaune. Et derrière, ça a été la rafale. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'on a vu à peu près toutes les formes de jeu, et c'est Denis qui en parlera certainement mieux que moi, mais on a vu un essai de 80 mètres, on a vu un essai suite à un 50-22, donc sur une pénalité, sur une touche plutôt, un essai derrière une mêlée, un essai sur un ballon de récupération. On a presque tout vu, et on a surtout vu une femme dans le match, c'est Johanna Griset. Mais Denis, je crois que globalement, les Françaises ont surtout beaucoup maîtrisé, ont été peu en danger, et c'est une victoire logique malgré un score.
Oui, puis large. Après, il y a ce début de match, cette première mi-temps qui est contre le vent, qui est difficile à négocier. Puis après, il n'y a pas photo, comme on dit. Je veux dire, la qualité, elle est du côté des Français, même si les Italiens se sont accrochés, il y a une vraie qualité individuelle, surtout. On le voit, la Grisée, l'ailier, la Trocarelle, qui a marqué 3 essais, avec. On ne sait pas si on est puncheuse, mais elle ressemble un peu à la Gamme Villière dans le style. Donc c'est une finisseuse, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas elle a énormément de qualité. Elle peut faire des différences même face aux meilleurs. Et voilà, donc à l'arrivée, il n'y a pas de surprise. Hein, on était archi favoris, mais c'est plutôt rassurant d'un point de vue collectif, notamment en seconde mi-temps où on a retrouvé quand même du lien, ce qui n'était pas le cas.
Elles se sont lâchées, et puis on a pu même mettre un peu au frais les leaders de cette équipe de France. Je pense à Caroline Droit, Philopon, Bourdon. Elles ont pu sortir près de 20 minutes avant la fin, ce qui est une vraie bonne nouvelle en vue de cette demi-finale face à la Nouvelle-Zélande. On a pu faire souffler aussi tout le 5 de devant, ce qui est aussi très important. Et Denis en parlait, Johanna Griset a réussi une performance majuscule.
Tu soulignais tout à l'heure, Pierre, qu'il faut faire attention à ne pas calquer les forces en présence du rugby féminin et du rugby masculin. Ce 15 d'Italie, il est beaucoup plus redoutable.
Tout à fait, chez les femmes.
Chez les femmes que chez les hommes. Question similaire, c'est All Black qu'on va retrouver à domicile chez elles le week-end prochain. Est-ce que elles sont aussi fortes que leurs homologues masculins, aussi redoutables? Est-ce que les Bleus ont une chance d'aller en finale, messieurs?
Bah, d'un point de vue purement comptable, elles sont plus fortes puisque elles ont remporté 5 des 6 dernières Coupes du Monde. Donc elles sont monstrueuses. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'équipe de Nouvelle-Zélande était venue perdre 2 fois en France il y a un an.
Et ça, il n'y a pas longtemps. Ouais.
Mais c'était dans des circonstances très particulières parce que les Black Ferns n'avaient pas joué depuis 2 ans. Et c'était les retrouvailles de cette équipe-là. Elles étaient venues perdre en France les armes à la main. Aujourd'hui, elles jouent à domicile. Elles ont un énorme collectif. Elles ont aussi une individualité hors norme qui est Woodman, l'ailière, qui est juste la meilleure joueuse du monde. Qui fait des différences monstrueuses. Aujourd'hui encore 2 essais face au Pays de Galles. Oui, je pense que l'équipe de Nouvelle-Zélande femme actuelle est plus forte que l'équipe de Nouvelle-Zélande homme actuelle. Après, est-ce que les comparaisons sont encore tenables? Je ne sais pas.
Bah après, ça relève de l'exploit. De toute façon, là, c'est un peu comme si quand tu joues les quarts de finale en 2007 face aux Blacks et que tu l'emportes à Cardiff. Sincèrement, là, ils sont archi favorites, les Néo-Zélandaises, chez eux, dans un stade plein craqué, puisque je crois qu'il va y avoir, on joue à guichet fermé.
Quasiment, ouais. L'Eden Park qui va être plein, c'est magnifique. Plein, ouais.
Et puis, comme le dit très bien Pierre, je crois qu'ils se sont préparés en conséquence. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on les voit et on l'a vu contre le Pays de Galles, qui est pas une mauvaise équipe, le Pays de Galles, hein, qui ont littéralement explosé. Ouais, c'est pas rassurant.
55-3, hein,
c'est pas
gars,
rassurant parce qu'on les voit en pleine bourre, quoi. Tu vois, ils arrivent au bon moment, dans le bon timing. Ça relèvera de l'exploit.
Les forces de ces Néo-Zélandaises, c'est la même chose que leurs homologues masculins. C'est ça sort plus vite des regroupements, c'est plus puissant, ça court plus vite.
Un collectif qui est redoutable.
Puis technique individuelle, au-dessus du lot. Voilà. Puis il y a beaucoup de femmes, c'est le cas chez les Françaises comme chez les Néo-Zélandaises, qui connaissent un double parcours à 7 et à 15. Ce qui fait qu'on retrouve des qualités similaires de vitesse, d'explosivité, de technique individuelle. et de défense sur l'homme, en tout cas sur la femme, assez hors norme. Mais voilà, je vois pas beaucoup de points faibles à cette équipe néo-zélandaise depuis le début du tournoi.
Faible avec, tu l'as dit, la meilleure joueuse du monde. À l'aile, et surtout, il y a peut-être aussi un air de revanche quand même chez elle, parce que c'est une Coupe du Monde, c'est à domicile, elles ont perdu deux fois contre les Françaises, il y a aussi cette, ça va jouer dans les têtes des Néo-Zélandaises, elles vont peut-être se dire, on va leur faire mal, c'est maintenant. Et
enfin, c'est le plus grand rendez-vous de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant, voilà. Pour les Néo-Zélandaises. Pour les Françaises, on avait déjà eu un premier choc face à l'Angleterre en match de poule, que les Françaises avaient perdu, mais oui, c'est le rendez-vous le plus important de cette génération néo-zélandaise, parce qu'une Coupe du Monde à domicile, c'est pas rien. Et pour les Françaises, c'est peut-être la fin d'une histoire pour certaines joueuses de l'équipe de France, notamment Safi Ndiaye, pour ne citer qu'elle. Ce serait bête d'échouer une nouvelle fois aux portes de la finale mondiale, même si c'est un défi exceptionnel, oui. Très très difficile qui se présente face aux Bleus.
Et ça vaudra peut-être le coup de brancher le réveil, ouais, effectivement, le week-end prochain.
7h30.
Le décalage horaire. Alors 7h30, c'est confirmé parce que
7h30.
Ouais. 7h30, c'est si c'est en prime time,
c'est
là-bas.
Ça. Hein. Normalement, sauf cataclysme, c'est 7h30 heure française.
On croise les doigts. En un mot, Pierre, demain, je disais, les deux affiches des quarts de finale, Angleterre-Australie, Canada-États-Unis, sur le papier, Angleterre et Canada. On est sûr de les retrouver dans l'autre demi-finale.
L'Angleterre, à moins d'une épidémie de gastro, elles seront en demi-finale. Et de l'autre côté, le match sera peut-être un peu plus disputé. Les Canadiennes partent avec un temps d'avance. Les Américaines, elles aussi, sont renforcées par certaines joueuses de l'équipe de Seven. Mais sur le papier, le Canada est au-dessus. Et on devrait retrouver les équipes classées de 1 à 4 au niveau mondial en demi-finale, ce qui est à peu près logique. Juste, si j'ai le temps, de dire un mot de Charlotte Escudero, qui est la surprise de cette équipe de France, qui normalement ne devait pas être dans le groupe, à accrocher sa place à la dernière seconde pour participer à cette Coupe du Monde, qui a bénéficié du chaos malheureusement de Romane Ménager, qui s'impose au poste de numéro 8. Elle a 21 ans, elle est là presque par hasard, mais en tout cas elle ne reste pas dans ce groupe par hasard. Elle est exceptionnelle, elle a gagné quasiment tous ses duels. Il y a un petit casse-tête qui se profile pour les sélectionneurs, parce que en troisième ligne on a quand même Gaëlle Hermé, on a Romane Ménager qui va revenir, on a Safi Ndiaye qui est la joueuse la plus expérimentée, on a Charlotte Escudero. Ça va être difficile de faire des choix, il y aura forcément des déçus. On espère que ce ne sera pas l'équipe de France.
Oui, et en même temps, c'est des choix qu'un sélectionneur
peut choix de réussir riche,
d'avoir à faire.
Exactement. C'est mieux, oui, c'est mieux.
Oui, exactement. Hein, allez, les Bleus, on veut notre finale, un exploit en Nouvelle-Zélande le week-end prochain. Ce serait vraiment un régal. Rendez-vous et pris, on suivra ça évidemment sur RMC. Merci beaucoup, mon Pierre Amiche.
Plaisir.
Tu reviens tout à l'heure pour nous parler de.
Bien sûr. Je vais aller dormir un petit peu quand même un jour.
On se libère un petit peu et on te retrouve évidemment.
Merci beaucoup.
Demain dans les grandes gueules du sport. Denis, toi, t'as pas le choix. Tu restes parce qu'on va parler de la 14 tout à l'heure. Et puis.
Pas de problème.
Si d'ici là tu veux intervenir, dans un instant, on va parler football. Top 14 évidemment à 15h, Castres, Clermont, et puis le multiplex à 17h, ce sera au tour de Flora Moussy, le 7ème tour de Coupe de France, avec Valentin Jamin qui a un œil sur toutes les rencontres. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 14h27, vous êtes bien sûr RMC, c'est l'Intégral Sport. On est en direct jusqu'à 16h. Vous retrouverez ensuite Flora Moussy pour la suite, évidemment, de l'Intégral Sport, du rugby, du foot. C'est le 7ème tour de la Coupe de France, entrée en liste des clubs de Ligue 2. On est toujours avec Valentin Jamin qui a un œil sur les rencontres dont le coup d'envoi a été donné à 14h. Castres-Clermont, c'est à partir de 15h à suivre en direct. Denis Charvet m'accompagne jusqu'à 16h. Et puis à 17h, je vous le disais, comme tous les samedis, le multiplex top 14. Trois rencontres à suivre en direct. On vous présentera les matchs à suivre sur RMC tout à l'heure avec nos commentateurs sur place dans les stades. Mais pour l'instant, un petit coup de projecteur. On se retourne sur l'ouverture de la 13e journée de Ligue 1. C'était hier soir à Bollard. Le Racing Club de Lens a dominé Toulouse. Victoire 3-0 des 100 et or. Un triplé de Loïs Openda. Lens, deuxième de Ligue 1, a remporté tous ses matchs à domicile cette saison. 7 matchs, 7 victoires. Rien qui, bien sûr, ne gâche le plaisir de Jean Baumel, le King in the North de RMC. Salut Jean.
Salut Simon, salut Denis, bonjour à toutes et à tous.
Thibaut, t'étais au commentaire de la rencontre hier sur RMC. On a encore vécu une grande soirée à Bollard.
Bah oui, effectivement. À noter aussi que c'était quand même le 14e match d'affilée à guichet fermé. Donc, pas loin de 38 000 spectateurs. C'est incroyable le scénario qui se déroule à Bollard. Et puis, le nombre de points, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club de prendre autant de points, 30 points. Sur 39 possibles, c'est parce qu'il y a un ogre devant qui s'appelle le Paris Saint-Germain, mais sinon dans un championnat entre guillemets normal, les Lensois seraient peut-être même leader, pourraient peut-être même penser à jouer le titre. Bon, ça sera pas le cas, hein. En tout cas, c'est pas Franquès qui nous dira ça, et on peut le comprendre. Mais c'est vrai que ce qui se passe en ce moment à Lens, c'est une progression constante depuis le retour il y a deux saisons en Ligue 1, et tout est quasiment parfait, hein. Franchement, chercher des choses négatives du côté de Lens, c'est très difficile. On peut dire qu'il y a eu un pénalty raté par exemple hier de la part de Seko Fofana, ou bien stoppé par Maxime.
Bien arrêté, oui, voilà.
Voilà, hein, on peut mettre en avant aussi le gardien. Mais on va écouter Franquès qui, lui, veut rester mesuré, même s'il sait que c'est un début de saison extraordinaire.
Ça fait depuis qu'on est remonté qu'il se passe des choses, de belles choses ici, de belles choses au club, de belles choses avec les groupes que j'entraîne avec le staff. Mais je suis obligé d'être mesuré parce que moi, je lâche la pression à la fin de la 38e journée, quels que soient les résultats qu'on fera d'ailleurs. Donc je vais pas sauter au plafond. Très heureux, et c'est pas anodin, ça vous avez raison, d'avoir 30 points à la 13e journée. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais je suis là pour laisser l'exigence.
Heureux mais mesuré, Franquès, le coach est désormais manager, je crois, du Racing Club de Lens. Hein.
Il a été prolongé jusqu'en 2027 et il est monté d'un cran. Voilà, il est plus simple entraîneur, il est manager général du club. C'est aussi une réorganisation, hein, suite au départ de Florent Isolfi à Nice, et on sait que le directeur technique, directeur sportif, c'est Grégory Thil désormais, mais il a un peu plus de pouvoir, même si déjà il avait un œil quand même très averti sur pas mal de fonctions. Hein. Il a dit que c'était pas une révolution pour lui en termes de poste, mais au moins les choses sont clarifiées.
Mais une belle promotion malgré tout, et un titre toujours un petit peu honorifique. Ça ne l'a pas empêché d'oublier son métier premier, parce que Jean, encore une fois, son coaching a été déterminant hier soir.
Ouais, c'est vrai. Et puis on était avec coach et Kevin hier soir, et c'est vrai que on se disait, tiens, c'est un peu étonnant de voir Seko Fofana un peu plus haut. Des fois, il y avait aussi Jean Onana, il y avait Sotoka sur le banc, Luis Openda, hein, qui n'avait pas marqué depuis 6 matchs. Bah, en tout cas, on se disait, il va certainement les faire rentrer en deuxième mi-temps. Et il les fait rentrer, forcément, ça marche très bien, puisqu'Openda met un triplé, deux passes de Sotoka. Mais après, en conférence de presse, il nous a expliqué, parce que on était un peu étonnés de ce schéma offensif qui n'était pas hyper efficace. Il y avait des choses intéressantes, notamment avec Wesley Saïd. Mais il nous a expliqué qu'il avait construit une équipe pour démarrer, fatiguer l'adversaire, et une deuxième équipe avec les entrées d'Openda et de Sotoka entre autres, une équipe fatiguée en face, qui est face à des joueurs comme Openda et Sotoka, ça a fait mouche, ça a bien fonctionné. Donc c'est vrai que son coaching a été parfait hier soir.
Et justement, on va peut-être écouter Luis Openda, auteur d'un triplé, tu le rappelais, il s'est bien rattrapé pour un attaquant qui était en mal de but depuis 6 journées. Luis Openda.
Pas facile, mais je n'ai pas perdu confiance en moi. Les coéquipiers aussi, comme mon coach aussi, n'a pas douté une seule seconde de moi. C'est vrai que c'est pas facile de pas marquer pendant plusieurs matchs, mais je pense que j'ai répondu très bien ce soir, et c'est à moi de continuer, de pas m'arrêter sur ce soir.
Et encore une belle trouvaille du staff lensois, ce Openda, parce qu'il va vite, il prend la profondeur, il s'est terminé, il s'est protégé le ballon, il s'est joué avec ses copains.
Et tu le verras certainement si tout va bien avec les Diables Rouges à la Coupe du Monde.
Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est un superbe joueur de football. Alors ça, c'est pour l'animation offensive dont on parle souvent, Djibo. On parle beaucoup de jeu, de l'enthousiasme, de la générosité de cette équipe et des préceptes de Franquès. On parle beaucoup moins de cette solidité défensive qui est pourtant désormais une des marques de fabrique lensoise.
Ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs éléments. Déjà, Lens, c'est quand même la deuxième défense du championnat derrière celle du Paris Saint-Germain. Seulement 8 buts encaissés depuis le début de saison, donc en 13 matchs, c'est quand même pas mal. Il y a plusieurs explications, parce que le système est bien rodé, avec des joueurs qui sont là depuis un petit moment, Aïdara, Danso, Grady, Medina. Et puis cette saison, il y a aussi un très bon gardien, Brice Samba, qui vient de Nottingham Forest, qui pouvait rester en Angleterre, surtout que son club montait en première ligue, mais Lens a réussi à le séduire, à le faire venir. Et on sent aussi que l'arrivée de Brice Samba a fait franchir aussi un palier défensif par rapport aux saisons précédentes. Brice Samba d'ailleurs, qui s'est présenté en conférence de presse, qui est en plus un super client, quelqu'un de sympathique, et puis qui pourrait éventuellement être pris dans la sélection de Didier Deschamps. Hein. On sait qu'il y a des soucis pour les gardiens, notamment avec Mike Maignan, mais pourquoi pas numéro 3. On sait que coach il milite, les supporters de Lens aussi militent pour qu'il soit dans le groupe des Bleus. Voilà, donc il y a quand même des éléments très forts qui montrent que Lens a franchi vraiment un palier cette saison. on parle de Ligue des Champions. On va écouter dans quelques instants Francaise, mais hier soir, après la rencontre, il y a une question sur... oui, on a entendu les joueurs chanter la Ligue des Champions. Et Francaise, on va écouter sa réponse, mais il disait, ça ne se chante pas la Ligue des Champions, mais ça s'écoute. Et puis, il y a eu d'autres choses dans le vestiaire, et c'est assez drôle.
Je crois pas que ce soit les joueurs qui chantaient la Champions League, c'était la musique. Et ils ont chanté l'été indien de Joe Dassin, vous l'avez pas remarqué ça. Vous l'avez pas remarqué. Faut écouter toutes les chansons. Parce que là, vous sélectionnez. Il y a eu 40 chansons, il y a eu l'été indien, il y a eu la danse des canards, et il y a eu les Champions League.
Et on a d'excellents goûts musicaux dans le vestiaire, oui. Sans rayon, éclectique et excellent.
Bah même lui en plus, il est monté. En fait, c'est à l'image un peu de son équipe. Hein, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai que Francaise au départ, personne ne le connaissait et il pouvait pas non plus trop afficher de choses claires et nettes parce que personne ne le connaissait. Voilà. Et aujourd'hui, vu sa position, et on le découvre de plus en plus. Mais c'est quelqu'un qui est qui est très ouvert, normal, qui a voilà, c'est, et là on nous décrit un petit peu ce qui se passe dans le vestiaire. Il peut être drôle aussi, donc c'est sympa. Et puis on se rend compte même à l'entraînement, je peux vous le dire, toutes les semaines quand on y va, ça plaisante beaucoup. Il y a, voilà, c'est, tout va bien. Il y a une hype RC Lens, une hype Francaise en ce moment, et ça continue parce que c'est impressionnant. Prendre 30 points sur 39 possibles, ouais. Franchement, c'était du jamais vu, tout simplement, pour le Racing Club de Lens.
Pour le plus grand bonheur, on le devine, des supporters lensois comme Théo qui a fait le 32-16 et qu'on est ravis d'accueillir dans l'Intégral Sport. Salut Théo.
Salut Théo.
Bonjour.
Théo, t'étais à Bollard hier soir ou devant la télé ou avec RMC dans les oreilles?
J'étais devant la télé.
D'accord. Bon, t'aurais pu répondre à RMC quand même, quitte à pas être au stade.
Vous voyez, couper le son, les RMC.
C'est gonflé.
C'est ça, j'ai coupé le son, les RMC. On va dire ça.
Théo, ta réaction, Jean vient de, nous rappeler à quel point ce début de saison est exceptionnel. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que t'es en plein rêve? Comment tu vis cette période bien? On l'imagine.
Ah, très très bien. Oui, pour nous supporters, c'est un rêve. Qui aurait dit il y a 5 ans en arrière qu'on allait être deuxième de Ligue 1 à quelques points du PSG? C'est en sachant qu'il y a 5 ans, on se battait pour le match en Ligue 2. Et non, c'est incroyable. On profite. On prend match après match. On essaie de donner le maximum pour l'équipe quand on va au stade. Je veux dire, on le voit, le 14e guichet fermé, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et puis les parcs à visiteurs aussi qui sont tout le temps remplis quand on se déplace, à l'image à Marseille la semaine dernière où le parcage était rempli.
Ouais, pas loin de 2000 je pense à Marseille.
C'est ça, donc c'est ça, l'équipe se sent suivie, je pense que ça joue aussi un rôle important, ils se sentent poussés, je veux dire à Marseille ça a fait peut-être aussi un peu, ça leur a donné le truc qui a fait qu'ils ont tenu tout le match, parce que c'était un match très très compliqué. Hier, on l'a senti aussi la présence du 12e homme, même du 13e homme, si on peut dire. Et c'est la force du club, ses supporters, ensuite les joueurs qui sont tous concernés. Il n'y en a pas un qui se pense au-dessus des autres. Tout le monde joue pour l'un et pour l'autre. Et alors, ça, c'est incroyable.
Et alors Théo, justement, on entendait là il y a quelques instants la mesure, la sagesse, j'ai envie de dire, de Franck Hesse, qui veut pas trop se projeter, qui reste un petit peu mesuré malgré ce début de saison excellent. Vous, les supporters, quand vous discutez, vous prenez à rêver ou est-ce que vous restez prudent?
Ah mais oui, on se permet de rêver, comme hier soir, voilà, une victoire 3-0 dans un stade rempli, on se permet de rêver, de se dire voilà, on est dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après, je pense que comme là, à froid maintenant, faut aussi garder les pieds sur terre, faut pas oublier qu'on reste Lens, qu'on a quand même vécu pas mal de désillusions dans le passé, et faut rester, continuer à progresser de saison en saison comme on fait depuis 3 ans. Et par exemple, si on doit jouer une Coupe d'Europe, personnellement, je pense que la Conference League serait plus à notre taille
pour l'Europa League aussi. Résultats. L'Europa League, comment? C'est pas mal. L'Europa League, c'est bien aussi. Hein.
Ah oui, l'Europa League, oui, ça serait super aussi. Mais je pense que la Conference League.
Bah, tu dois finir 5e ou 6e, enfin 6e pour la Ligue Conférence. Ouais, c'est là franchement, je pense que les supporters pensent plutôt top 5 quand même. Ça serait vu la saison de Lens, c'est vrai que pour l'instant. C'est plus de 2,3 points pris par journée de championnat. Enfin là c'est un rythme normalement, c'est Ligue des Champions direct, mais franchement on comprendrait pas que ça peut arriver, hein, un incident. C'est vrai qu'il y a une trêve un peu particulière cette année avec la Coupe du Monde, mais que Lens ne finisse pas dans les 5 premiers, si dans les 5 premiers, tu fais au moins la Europa League, hein.
Mais d'autant qu'en plus le rêve en tout cas, où les espoirs vont pouvoir pourrait continuer un petit peu parce que bon, le calendrier de Lens des deux prochains matchs, déplacement à Angers, réception de Clermont, ne paraît pas insurmontable sur le papier. Réponse évidemment de toute façon très rapidement. Merci beaucoup Thibaut d'être passé par l'intégration.
Avec plaisir Simon, à bientôt.
Et on remercie Théo d'avoir fait le 32-16. On souhaite une belle saison à tous les supporters sans et hors. Petit détour par le 7e tour de la Coupe de France, mon cher Valentin Germain.
On est à la 40e minute de ces matchs qui ont débuté à 14h. Pour l'instant, les quelques clubs de Ligue 2 sur la pelouse font le travail. Le Paris FC a ouvert le score à l'extérieur sur la pelouse des Ulis. 1-0 pour le PFC. But de Warren Cadignore a également ouvert le score assez rapidement sur la pelouse de Mérignac. Tandis que Sochaux, autre pensionnaire de Ligue 2 sur les terrains pour le moment, est toujours à 0-0 face à Hambourg-Haut. Vous dire aussi que Mâcon mène face au Velay FC et que Wassel et Poissy font pour le moment un partout. Voilà où il y a eu des buts cet après-midi pour le moment.
Merci beaucoup Valentin. On fera un point évidemment à la mi-temps des rencontres qui ont débuté à 14h. L'Intégral Sport va revenir dans un instant. Vous savez qu'un des secrets maison RMC, c'est de savoir jongler avec un ballon rond et un ballon ovale. Évidemment, Denis Charvet est toujours avec moi. On va se projeter dans un instant sur l'ouverture de la 9e journée de Top 14. Castres-Clermont, match à suivre en direct sur RMC. Évidemment, vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans un instant.
RMC, Intégral Sport, Simon Dutin.
14h42, vous êtes bien sûr RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. On a pris la main à 14h, on est ensemble en direct jusqu'à 16h et puis ça continuera à tout l'après-midi du Top 14, le 7e tour de la Coupe de France de football. Vos rendez-vous habituels évidemment, retour sur l'actu de la semaine, du week-end, des jours à venir et le live. Comme d'habitude, dans un peu plus d'un quart d'heure, c'est l'ouverture de la 9e journée de Top 14. Elle débute donc à 15h avec cette rencontre entre Castres et Clermont. Denis Charvet, notre membre de la Dream Team, est toujours avec nous. On va parler avec lui de cette rencontre. Castres finaliste du dernier Top 14, actuellement 7e face à une équipe de Clermont en pleine renaissance, bien que 6e seulement. Hein, on ne fait pas encore de plan sur la comète en Auvergne, mais ça va mieux que la saison dernière. On va se projeter sur cette rencontre aussi alléchante qu'indécise avec Arnaud Valadon qui sera au commentaire. Salut Arnaud.
Salut Simon. Salut Denis. Salut à tous et bienvenue à Pierre Fabre avec un vent qui pourrait jouer quelques tours au buteur cet après-midi puisque ça souffle un peu dans la sous-préfecture du Tarn.
Exactement. Nous sommes bien dans le Tarn, mon cher Arnaud. Arnaud, première journée de Top 14 sans les internationaux, retenue par Fabien Galthié avec le 15 de France. À Clermont, il va y avoir un vide du côté des trois quarts. Il va manquer quelqu'un.
Écoute, il demande Damien Penaud, ça c'est sûr, mais ils ont eu quand même du côté de l'ASM la joie quelque part de récupérer Aliveretti Raka qui a été libéré. Et Raka, c'est quand même 5 essais cette année pour les jaunards. Donc et il est titulaire en plus, il est aligné évidemment Aliveretti Raka. Donc il y a au moins ça, c'est vrai qu'ils font sans Penaud. Et du côté du CO de Castres Olympique, on a récupéré Louis Lebrun qui avait été appelé suite à des blessures et celui qui peut jouer aussi bien au centre ou à l'arrière ne figure pas sur la feuille de match. Voilà, il est préservé, mais on est quand même sur un groupe quasi complet. Et mine de rien, c'est un match important entre le CO qui a l'habitude de gagner tout à domicile, hein, 4 victoires cette saison, on est sur 25 victoires de suite ici à Pierre Fabre, mais ils sont 7e à 3 points des Clermontois qui sont eu 6e aux portes et donc même au début du top 6. Et ben voilà, si les Castrés venaient à perdre, ça pourrait quand même déjà être un premier tournant et les Clermontois pourraient en 4 victoires affirmer un peu plus leur renaissance, comme tu disais, voilà, aller s'installer dans ce top 6 avant une dernière journée de championnat, une petite trêve ensuite pour le top 14.
Denis, je vais te laisser le choix. Tu préfères réagir sur ce que j'appelais le renouveau clermontois après une saison dernière décevante ou au contraire, bon, sans être trop pessimiste, sur le début de saison, bon, ni très bon ni trop mauvais des Castrés, mais finaliste, on le rappelle, du dernier top 14,
ouais,
un petit peu décevant.
Un début de saison fragile du côté de Castres qui habituellement ont l'habitude de s'imposer facilement chez eux. Et on voit qu'ils ont des grosses difficultés à domicile. Donc, je m'appuierai sur l'un et sur l'autre. Et puis, clairement, qu'il n'y a rien à perdre aujourd'hui, si ce n'est qu'aller réaliser un petit exploit à Castres pour engranger des points. Et c'est toujours, tu sais, quand tu es sur une bonne dynamique, c'est toujours important. Quoi. C'est toujours important pour l'état d'esprit, pour le moral et pour la gagne. Donc là, voilà, c'est un match compliqué à négocier pour les Castrés. Et à l'inverse, clairement, on n'a rien à perdre. Et puis, je vois que la composition d'équipe derrière, elle est pas mal, que devant ça tient la route, donc voilà, il va y avoir match.
C'est ce que disait David Darry-Carré, un des entraîneurs du Castres Olympique, c'est que malheureusement les prestations à l'extérieur du CO sont pas bonnes. Ils ont perdu dernièrement à Toulon 28-20. Et bah quand t'es pas bon à l'extérieur, quand tu prends pas de points à l'extérieur, il y a qu'un seul bonus défensif, bah t'as la pression à la maison parce que tu dois gagner dans ce championnat de top 14. Et voilà, le CO, alors ils sont pas au pied du mur parce qu'on est seulement à la 9e journée, mais ils sont pratiquement, à cause de ces mauvais résultats à l'extérieur, dans l'obligation de s'imposer à domicile pour envisager un top 6 et des phases finales ensuite. Et c'est vrai que les Clermontois, alors ils se déplacent pas forcément bien, ils ont fait ce nul à la maison, on le rappelle, 23 partout contre l'UBB le week-end dernier. Ils ont gagné un seul match, c'est contre l'USAP, mais sinon ils sont allés perdre au Stade Français ou à Pau notamment, hein.
Castres qui n'a laissé aucun point de bonus défensif à ses adversaires, bonus défensif uniquement parce que évidemment tu le rappelais, ils ont remporté toute leur rencontre à domicile. C'est vrai qu'en cas de défaite hein, face à quelqu'un qui le poursuit immédiatement au classement, le top 6 s'éloignerait un petit peu quand même, victoire quasi impérative pour les Castrés.
Bon, on le voit hein, tous les dimanches, c'est sûr que...
Et Denis, surtout, Simon, ils sont qu'à 2 points du 11e qui est Montpellier. Ça, donc vous voyez le nombre d'équipes intercalées, Castres, Racing, Bayonne, UBB, Montpellier, ces équipes se tiennent, donc elles sont 5, se tiennent en 2 points. Donc tu vois, tu peux très bien te retrouver 7e et peut-être que les Castres, en cas de défaite, pourraient se retrouver 11e. Donc tu vois, c'est très très resserré.
Et si Brive l'emporte face au Racing, le Racing resterait à 17 sans point de bonus, évidemment. Et Brive remonterait à 2 points de Castres s'il y a en cas de défaite des Castres.
Brive Racing, c'est l'une des 4 affiches de cette 9e journée de top 14 qui, dans le coup d'envoi, sera donnée à 17h et vous pourrez suivre évidemment en direct sur l'antenne de RMC dans le multiplex autour de Flora Moussi. Je vous donne le programme dans un instant, mais ce Castres Clermont, Denis, ouverture de la 9e journée, comment est-ce que tu le sens? Je vais te demander de te mouiller un petit pronostic.
Je vois un match très serré, très compliqué encore une fois à négocier au niveau castré. La pression, elle est sur Castres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'essentiellement les prestations de Castres sont pas bonnes depuis le début de la saison. Donc voilà, si on serait dans une configuration comme celle de l'année dernière, je te dirais Castres va l'emporter de 15 points d'écart. Là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Donc avantage partagé. Et j'ai envie de dire que clairement, un coup à jouer ce soir.
Donc tu vois plutôt les Clermontois l'emporter. Même pas un petit match nul à la mi-temps, Denis?
Je vais jouer.
Évidemment.
Une petite pièce, quand même. Pas trop, mais voilà, tu peux mettre 10 euros. Quoi.
Voilà, il faut sacher les auditeurs, hein, pour ceux qui.
Sachant qu'elle est à 12 à la cour.
Les paris RMC à retrouver chaque samedi, chaque dimanche.
Elle est dans la dinguerie de Denis, je crois.
Absolument. Ouais.
Pour Denis, tous les matchs de rugby donnent lieu à un match nul à la mi-temps.
Non, voilà, mais il y a des matchs. Il y a des matchs qui. Comment dire? Il y a des matchs où c'est plus serré que d'autres. Et là, on est dans une configuration sur une première mi-temps où ça va être.
Tu nous l'annonces pour Denis. C'est match nul à la mi-temps, Castres-Clermont. Eh bien, rendez-vous aux alentours de.
Je l'espère pour moi.
Autre chose à signaler, Arnaud, avant cette rencontre qu'on aurait oublié dans cette présentation?
Écoute, non, si ce n'est les petits bobos, allez, côté ASM, PC Yato, Slimani ou Cancorier, et puis on l'avait dit, Damien Penaud, retenu avec le 15 de France, qui est le seul joueur dans les deux équipes, être tout simplement à Marcoussi.
Juste rappeler quand même qu'aux ailes, il y a Delgui, l'international argentin, et Raka de l'autre côté, qui est en pleine bourre. Oui.
Et Nakalevou, le Fidjien au centre, Nakalevou, et puis une charnière avec le jeune Baptiste Jauneau, 18 ans, et Anthony Belot.
Et puis la troisième ligne qui est énorme, parce que c'est une troisième ligne qui est pratiquement titulaire, c'est Fischer qui revient, Frisley et Ituria.
Et le capitaine Ituria. Ouais. Voilà. Mais en face, c'est pas mal. Hein. Nakosi, Boditu, Kokaji, Pali, c'est du Mora pour les arrières. Bref, on va voir un beau match de rugby. Vraiment, on a hâte de voir ce que ça donne.
Raisuke, on poste le troisième ligne qui est habituellement un ailier. Ouais. Et qui est un joueur qui fait des ravages dans les défenses.
Castres-Clermont, le 7e face au 6e du top 14, c'est l'ouverture de la 9e journée. Match à suivre en direct, en intégralité, sur RMC. Arnaud Valadon au commentaire du côté du stade Pierre Fabre. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes. Arnaud, on aura l'occasion de reparler évidemment avec toi des compos alignés pour ces deux rencontres. Match à suivre avec Denis Charvet, notre membre de la Dream Team RMC. À tout à l'heure, Arnaud. Avant de faire une petite pause, on va se tourner vers Valentin Jamin qui a un œil sur les résultats à la mi-temps des premières rencontres du 7e tour de Coupe de France de
football.
C'est
effectivement la pause sur quasiment toutes les pelouses. Le Paris FC Club de Ligue 2 mène 1-0 sur la pelouse des Ulis. Niort fait le travail à Mérignac, 1-0 également. Sochaux tenu en échec pour le moment, 0-0 face à Hombourg, au club de 7e division. 1-0 pour Mâcon face à Velay. Saint-Quentin dans la Haine fait 0-0 face à Yangen. Et Wassel Poissy, 1 partout. Et Luciana Drancy, 0-0. Je sais que tu aimes ces noms de petites équipes de
Bien
Coupe
sûr.
De France.
Bien sûr. sûr. Mais j'aime pas trop quand tu dis on fait le travail à Mérignac. Méfie-toi que Mérignac ne fasse pas l'exploit non plus face au Chamois.
T'as mis avec le président de Mérignac, c'est ça?
Ah, écoute, c'est la maison. Merci beaucoup Valentin, le 7e tour de la Coupe de France. Vous ne manquez rien de l'évolution des scores dans l'Intégral Sport sur RMC. Intégral Sport qui revient dans quelques instants, vous ne bougez pas.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 15h02, c'est l'Intégral Sport sur RMC comme chaque week-end, votre rendez-vous, le temple du sport en live à la radio. On va filer tout de suite au stade Pierre Fabre à Castres-Clermont. C'est l'ouverture de la 9e journée de Top 14. Arnaud Valadon sur place, ça vient de débarrer à l'instant.
Oui, depuis une minute, coup d'envoi donné par les Castrés, Benjamin Urdapieta. Ils viennent de se faire sanctionner, les Castrés, alors qu'ils avaient obtenu une touche sur les 22 mètres. Touche longue avec Dumora qui est venu bien récupérer cette longue touche. Et attention, Dumora, une nouvelle fois, il casse un premier plaquage, un deuxième plaquage. Ils viennent de récupérer le ballon. Ils ont concédé une pénalité, les Castrés, juste avant cela. Et les joueurs de Clermont ont du mal avec le vent parce qu'on a vu le jeune Baptiste Jauneau, le demi de mêlée. Eh bien, être en difficulté au moment d'avoir fait un jeu au pied de dégagement. Il n'a pas beaucoup avancé, à peine de 10 mètres, à cause de ce vent un petit peu particulier à Pierre Fabre cet après-midi. Et là, ce sont les Clermontois qui sont sanctionnés à l'entrée des 22 mètres face au poteau. Globalement, on va peut-être aller prendre les points pour le CO et tout de suite prendre les commandes dans cette partie. Mathieu Babillot qui discute avec Monsieur Rénal et qui fait signe les poteaux à la première pénalité, but de pénalité qui va être tenté dans un instant pour Benjamin Urdapieta. Le demi d'ouverture du CO, 0-0, 2 minutes de jouer, peut-être le score. C'est largement dans les cordes de nid de Benjamin Urdapieta, ouais. Cette pénalité face au poteau, malgré ce vent, on va dire, de la gauche vers la droite, quand vous voyez les poteaux.
Il y a un truc incroyable,
il y a plusieurs plaquages manqués quand même sur le Moura,
les liés castrés, mais surtout, je reviens au coup de pied, c'est une touche, donc c'est une pénalité. Les Clermontois pouvaient dégager, trouver une touche, récupérer le ballon dans le lancer. Et puis là, il n'a pas trouvé la touche. Je ne comprends pas, le vent est très violent.
Il souffle un petit peu.
Il n'a pas trouvé une touche de 20 mètres.
Non, mais déjà, son premier coup de pied est allé au-dessus de la tribune en face des bancs. Et la pénalité passe pour Benjamin Urdapieta. Ça fait 3-0.
Curieux.
Alors le vent est un peu fort parce qu'on voit les poteaux, le haut des poteaux, il bouge. Donc c'est assez traite, mine de rien, ce vent. Et on va voir comment gérer. Mais c'est vrai que cette pénalité, alors que les Clermontois auraient dû gagner du terrain et même récupérer le bénéfice de la touche, eh bien, c'est pas le coup. Anthony Bello qui vient donc d'engager le CO qui mène 3-0 dans cette partie. Et on joue depuis 3 minutes.
Castres-Clermont, c'est l'ouverture de la 9e journée de Top 14. Castres 7e avant cette rencontre qui reçoit Clermont juste devant, 6e au classement du Top 14. Micro ouvert pour toi, Arnaud Valadon, du côté du stade Pierre Fabre. Tu interviens dès qu'il se passe quelque chose sur la pelouse du CO. Avant de parler football dans un instant, je vous rappelle, vous l'avez entendu il y a quelques instants dans la petite bande-annonce, c'est l'événement du week-end à la radio française, mondiale hein, même. Novak Djokovic, le Serbe, invité exceptionnel de Bartoli Time, votre nouveau show le dimanche de 19h à 20h. Marion Bartoli qui reçoit donc le Serbe pour un entretien exceptionnel. Ce sera non pas avec Jean-Christophe Drouet, notre ami qui est en vacances, mais ce sera avec Flora Moussi, Djokovic, invité exceptionnel. C'est quand même un peu la classe hein, sur RMC. À l'occasion, évidemment, vous le savez,
du
Masters de Paris-Bercy. Ah, il y a un tirateur du monde. Vous n'avez pas le même répertoire, je crois, dans votre téléphone. Hein.
Oh, je peux en avoir. Pas de Djoko.
Je crois que oui. Ouais. J'aimerais bien avoir ton répertoire également. Denis Servet, évidemment, membre de la Dream Team qui nous accompagne jusqu'à 16h pour notamment son expertise autour de ce Clermont-Castres. Mais, vous le savez, on jongle entre l'ovale et le rond dans l'Intégral Sport. C'est la promesse de RMC, 7e tour de Coupe de France de football avec vous, Valentin Jamin. C'est toujours la mi-temps, ça a repris les matchs qui ont débuté à 14h.
Ça a repris pour les matchs qui ont débuté à 14h. Les scores n'ont pas bougé. Je peux vous dire ce que font les équipes de Ligue 2. Le Paris FC mène toujours 1-0 sur la pelouse des Ulysses. Niort mène également 1-0 sur la pelouse de Mérignac. Et Sochaux, autre club de Ligue 2 engagé à 14h, fait 0-0 face à Hombourg-Haut.
À 15h, il y a des matchs qui démarrent. Il y a une affiche, non, Saint-Étienne, Rodez.
C'est une affiche dans le sens où, effectivement, ce sont deux clubs de Ligue 2 qui s'affrontent. C'est le plus haut niveau de ce 7e tour de Coupe de France. Donc, Saint-Étienne-Rodez, parti depuis 7 minutes. 0-0, on peut suivre d'autres clubs de notre 2e division, Grenoble, qui se déplace sur la pelouse d'Ilsac-Moldenheim, Laval sur la pelouse d'Orvault, club de Régional 1, 6e division, ou encore Pau, qui va affronter Salinière Aigues-Mortes. Voilà pour ces matchs partis à 15h.
On fera un point régulier, évidemment, avec toi pour sur les scores de ces rencontres de 7e tour de Coupe de France. Dans un instant, la Ligue 1, mais avant ça, retour à Pierre Fabre, Castres-Clermont, ouverture de la 9e journée de Top 14. Arnaud Valadon, où en est-on ?
La 6e, 3-0 pour le CO face à Clermont, et des Clermont 3 très, très imprécis, puisqu'ils ont commis un en avant à l'entrée de leur 22 mètres. Donc ça offre une mêlée introduction pour le Castres Olympique, très bien placé, vraiment pratiquement sur la ligne des 22 mètres dans l'axe. Des Clermontois, Denis, qui semblent ne pas être bien rentrés dans leur partie.
Ouais,
hein.
C'est peut-être le vent qui les gêne, j'en sais rien, mais en tout cas, ils font que des gueulets de ballon, comme on dit. Voilà.
Et attention, on va partir sur le petit côté. Ça part avec Arata, le demi de mêlée du CO. On essaie de jouer tout en puissance avec Raisuke, justement, et le ballon qui est relâché à 5 mètres de la ligne, et les joueurs de Clermont qui vont essayer de se dégager avec Jean-Pascal Barak. On va essayer de relancer, pourquoi pas de l'autre bout du terrain. Finalement, on va jouer au pied, au loin, sur Dumora, à l'arrière du CO.
L'arbitre est pas, comment dire, sur les mêlées, il laisse faire, alors que les Clermontois enfoncent toutes les mêlées.
Et oui, et d'ailleurs c'est un point intéressant, parce que le CO s'est fait énormément sanctionner le week-end dernier, et même depuis le début de la saison, et Wilfried Ongpata, le pilier droit, a dit ça suffit, il faut qu'on soit discipliné, qu'on arrête de prendre des pénalités.
C'est pas les pénalités, l'arbitre ne siffle pas.
Il siffle pas, oui.
Ils sont pris en mêlée sur chaque
mêlée. Je te dis le contexte, mais effectivement, cette mêlée qui était dans le camp du CO tout à l'heure, ils se sont fait enfoncer, notamment à gauche, gauche Clermontois et côté droit du CO, et c'est un point de vigilance. Et c'est vrai que pour l'instant, monsieur Reynal n'a rien sifflé sur les pénalités en mêlée, et d'ailleurs, il y en a une nouvelle. Suite à un nouvel en avant, tout proche de la ligne, dans le camp de l'ASM, à 10 mètres des 22, entre les 10 mètres et les 22. Mais cette fois-ci, elle sera introduction pour l'ASM Clermont-Auvergne. Introduction pour Baptiste Jeunot dans un instant. 3-0 pour le Castres Olympique face à Clermont. Et on joue depuis 8 minutes dans ce premier match de la 9e journée de Top 14.
Et micro ouvert, évidemment, pour toi, Arnaud Valadon, du côté de Pierre Fabre. Tu interviens dès qu'il se passe quelque chose au niveau du score ou des décisions arbitrales. Castres-Clermont, ouverture donc de cette 9e journée de Top 14, dont vous ne manquerez rien, comme d'habitude, sur l'antenne de RMC. Allez, on reparle foot, parce que les clubs de Ligue 1, eux, ne sont pas en Coupe de France. C'est la 13e journée de Ligue 1. Deux rencontres qui se disputent ce samedi. PSG 3, coup d'envoi 17h au Parc des Princes. Le leader face au 11e du championnat, Mbappé face à Bruno Hirles. Match à suivre en direct sur RMC. Aurélien Tertien aux commentaires, et Fabrice Hawkins, notre spécialiste foot de la rédaction RMC Sport, pour en parler avec nous en studio dans l'Intégral Sport. Salut Fabrice.
Ah, salut Simon, salut à tous.
Salut Fabrice.
Fabrice, est-ce que, c'est la question qui est sur toutes les bouches, désolé, est-ce qu'on a déjà des infos sur la compo parisienne? Est-ce que la MNM sera sur la pelouse du Parc tout à l'heure?
Oui, on a des petites infos. Et oui, a priori, la MNM sera sur la pelouse du Parc des Princes, évidemment, devant Mbappé, Neymar, Messi, Christophe Galtier, qui devrait reconduire son fameux 4-3-1-2, puisqu'il fonctionne bien maintenant depuis quelques matchs, avec quelques petites modifications quand même par rapport à l'équipe qui avait joué contre le Maccabi Haïfa cette semaine, et avant évidemment le gros match face à la Juve. Ce sera mercredi prochain, qui va compter notamment pour la première place du groupe. Alors pour le 11, donc les trois de devant, on l'a dit, dans les buts Donnarumma, à gauche Bernat, à droite c'est Mukiele qui devrait jouer, Hakimi devrait souffler, dans l'axe on devrait retrouver Presnel Kimpembe qui revient après sa longue blessure, avec Sergio Ramos. Marquinhos, lui aussi, qui a beaucoup enchaîné depuis le début de la saison, devrait prendre place sur le banc de touche. Un milieu à trois avec Vitinha, Verratti qui revient de suspension, et Carlos Soler, Fabien Ruiz et Renato Sanchez, vous l'aurez compris, sur le banc. Et donc les trois stars de devant, ça ne bouge pas.
Est-ce que tu viens de nous donner un élément de réponse, mais bon, est-ce que c'est si représentatif que ça? Kimpembe a fait son retour cette semaine en Ligue des Champions sur la pelouse, c'était face au Maccabi. Est-ce que il est déjà en mesure de contester la place à Sergio Ramos si on considère que Marquinhos est imbougeable?
Ça va être intéressant de voir ce que va faire Christophe Galtier dans les prochains matchs, et notamment dans ceux qui vont compter en Ligue des Champions, et puis après la Coupe du Monde. En tout cas, ce qu'on peut dire, et ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs en conférence de presse cette semaine, c'est qu'il a un problème de riche. C'est-à-dire que s'il joue à 4, il y a donc deux places pour trois joueurs, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos, et c'est tout simplement celui qui va être le plus performant qui aura le plus de chances de jouer, sachant quand même que dans cette perspective d'avoir un axe gauche et un axe droit, on peut imaginer que Presnel Kimpembe, le titi parisien qui a beaucoup d'expérience aussi, comme Sergio Ramos, même s'il a moins de trophées, s'il est performant, je pense qu'il part avec une petite longueur d'avance, mais après évidemment ce sera la logique et la loi du terrain.
À PSG 3 pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, ce sera à suivre évidemment en direct sur RMC avec Aurélien Tiercein au commentaire. Fabrice Hawkins, notre spécialiste foot, est avec nous dans l'Intégral Sport pour en parler. On entendra tout à l'heure Fabien Galthié interrogé en conf de presse. Il y aura des fois. Fabien
Galthié. Non, mais c'est normal, c'est mon
tueur. C'est ça, quand on jongle entre le bâton.
C'est normal.
Voilà, il fallait que ça m'arrive. Merci de m'avoir repris. Hein, ça évitera aux tweetos de le faire. Denis Charvet, toi, t'es plutôt ovale, mais bon.
On sait que t'adores
le Paris Saint-Germain. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que t'es content de voir les trois stars devant aligner pour un match face à trois?
On se régale de les voir jouer. En ce moment, ils sont en pleine bourre. Donc, on peut penser que face à trois, ce sera encore une partie de plaisir. Tu as raison de dire que c'est des matchs un peu pièges. Puis, d'enchaîner comme ça, il faut rester sur le même niveau. C'est jamais évident. Après, on peut penser qu'Mbappé va encore marquer.
Oui, on peut le penser. Le parieur invétéré que tu es.
Non, sans parieur, mais bon, il est tellement bien servi que non. Mais voilà, donc en ce moment, c'est vrai que pour trois venir au Paris Prince en ce moment, c'est moins évident qu'il y a moins.
Christophe Galthié, ER, et non Fabien Galthié, est en conf de presse hier sur son trio magique de devant.
C'est leur état de fatigue. Je ne vais pas vous parler de leur état de forme. On a marqué 50 buts, ils en ont marqué 40. Et quand il y a cette dynamique-là, on la casse pas, on l'entretient. Mais il y a des discussions avec mon staff médical, qui a fait un excellent travail ces dernières semaines. Ils vont bien. Après, il y a la réalité du match. On aura une partie, évidemment, avec un enjeu important en milieu de semaine à Turin. Mais je le répète encore une fois, quand il y a cette dynamique et qu'il y a cette osmose entre les uns et les autres, ça s'entretient, ça se casse pas. Et puis après, il y a sur la durée du match, voir comment le match peut évoluer pour faire participer d'autres joueurs.
Fabrice, PSG 3, 13e journée de Ligue 1, coincé entre deux matchs de Ligue des Champions. Ah, je comprends que Galthié ait envie de rôder son trio. C'était pas l'occasion quand même de faire jouer le petit Ekitike, lui donner peut-être de la confiance, lui qui court toujours après son premier but.
Ouais, effectivement, il court toujours après son premier but, Hugo Ekitike, mais il le sait, il le savait en arrivant au Paris Saint-Germain l'été dernier. Devant, il y a trois stars, trois joueurs qui, en plus, cette saison, combinent plutôt bien, s'entendent plutôt bien. 40 buts sur les 50 marqués par le Paris Saint-Germain, Christophe Galthié l'a dit, ont été inscrits par ce trio-là. Kylian Mbappé, Neymar, Messi qui marchent sur l'eau. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je lui avais posé la question hier en conférence de presse, de savoir quels étaient les critères, finalement, pour les mettre sur le banc de touche, ces trois stars-là. Et il a répondu, vous l'avez entendu, hein, c'est la fatigue. S'ils sont à 100%, tant qu'ils se sentent bien, ils vont jouer, parce que c'est les statuts, parce que il faut aussi continuer à parfaire ces automatismes-là. Ça n'a pas toujours été évident, notamment la saison passée. Là, ça marche bien. Je pense qu'il a envie de rester dans cette dynamique-là pour parfaire justement ces petits automatismes.
Puis en même temps, tu sors Mbappé ou tu sors Neymar, c'est impossible. Non mais c'est insoluble comme je sais pas, moi je suis à la place de Christophe Galthié, je ne sais pas quoi faire. Puis tu ne peux pas le faire là, à la vérité, à moins que Mbappé dise je veux me reposer parce qu'il y a le mondial qui arrive et que je veux pas enchaîner. Est-ce que Mbappé va se reposer?
Denis, il a raison, hein. Christophe Galthié l'a dit, c'est des discussions avec eux, savoir un petit peu leur état de forme. S'ils sont bien, s'ils sont pas fatigués, ils jouent.
Oui, parce qu'il a quand même face à lui trois carnassiers, hein, qui
Mbappé,
veulent,
il a 23 ans,
hein. Veulent gagner, veulent marquer, veulent faire marquer. Et puis, il n'est pas impossible de penser que il soit encore en configuration. Nous avons besoin de rythme, on a une échéance internationale, aussi, ouais. On a besoin de jouer et d'enchaîner. Paris Saint-Germain 3, 17h donc au Parc des Princes pour la 13e journée de Ligue 1. Mais faire tout de même face à des Troyens, un petit peu surprenant. Cette saison,
et joueurs.
Ouais, et on surveillera notamment Wilson Odobert qui revient, le jeune Titi parisien, enfin ex-Titi qui jouait au Paris Saint-Germain avec les jeunes notamment, qui est très surprenant, hein, déjà 3
ans
de passes décisives exactement depuis le début de la saison. Personne ne fait mieux dans le top 5 européen parmi les joueurs qui ont moins de 18 ans. Et puis il y a aussi l'arrière droit Thierno Baldé, lui aussi, ce sont des joueurs qui n'ont pas eu leur chance avec le Paris Saint-Germain mais qui sont performants aujourd'hui avec 3.
Et on adore ça, voir les produits de la formation s'épanouir ailleurs et découvrir des jeunes talents en Ligue 1. PSG 3, 17h, coup d'envoi au Parc des Princes. On revient de faire ça en commentaire. Merci beaucoup à Fabrice Hawkins d'être passé par l'Intégral Sport.
Merci Simon.
Et à très vite sur l'antenne de RMC. Un petit point score peut-être sur les matchs du 7e Tour de Coupe de France. Valentin Jamin, est-ce que ça a bougé, au moins pour les clubs de Ligue 2?
Ça n'a pas bougé. Saint-Etienne-Rodez, on en parlait tout à l'heure, l'affiche entre les deux clubs de Ligue 2. Un quart d'heure de jeu, 0-0, mais même chose pour Laval, par exemple, qui se déplace à Orvault. Grenoble sur la pelouse d'Isaac Modenheim. Le PFC mène maintenant 2-0. Si ça vient de bouger pour le Paris FC, sur la pelouse des Ulis, Senior mène toujours 1-0 à Mérignac.
Voilà, évidemment, le point complet régulier sur l'antenne de RMC, 7e tour de la Coupe de France, l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 dans la compétition. Petit détour par le rugby, c'est l'ouverture de la 9e journée de Top 14, Castres-Clermont au stade Pierre Fabre. Arnaud Valadon, où en est-on?
Et nouvelle pénalité passée par Benjamin Nourdaïpi, l'ouvreur argentin du CO. Ça fait 6-0, était plus facile que la première, encore plein axe, mais plus près, à même pas 10 mètres des poteaux, et ça fait donc 6-0, mais ça va quand même mieux pour l'ASM qui est en train, voilà, notamment sur les phases de conquête. Ils sont dans le camp du CO. Ils étaient à 5 mètres de la ligne tout à l'heure. Ils n'ont pas réussi à marquer. Poussé en touche, les Clermontois et notamment Cheikh Tibérien, le deuxième centre. Bref, le CO est en train pour l'instant de mettre les barbelés et l'ASM de s'écraser pour l'instant sur les barbelés tarnais pour l'instant. 6-0 pour le CO. Et on vient de passer le quart d'heure de jeu.
Denis, une petite réflexion.
Non, ils vont mieux.
Là devant cette rencontre.
Non, ils ont repris le match à l'endroit, on va dire, les Clermontois, après avoir fait beaucoup de fautes individuelles, et là maintenant ils arrivent à jouer enchaîné, donc attention parce qu'ils sont dangereux.
Est-ce que si on résume le jeu clermontois par le mouvement et le jeu castré par la puissance du pack, on est dans le cliché ou il y a quand même du vrai
cliché
là-dedans?
Oui et non, parce qu'en mêlée ils se font secouer les castrés et devant j'ai l'impression que les clermontois
avancent. Attention, il y a peut-être un 2 contre 1 joué pour les clermontois et finalement
Aïe, c'est mal joué.
Bautista Delgui qui n'a pas donné sur le côté à droite d'Eloui, parce que il y avait une opportunité avec notamment Jean-Pascal Barak qui demandait l'ancien joueur de 7 et qui est à l'arrière désormais à Clermont, et on voit surtout un Raka très puissant et il fait du chantier Alveriti Raka, lui qui a été relâché par les joueurs, par le Fabien Galthié, voilà, cette liste de 42, il y a des joueurs qui sont repartis en club et Raka en fait partie et il est titulaire avec l'ASM. Cette fois-ci, ils sont devant les 22 mètres du CO, ils sont les 6-0, les joueurs de Clermont-Ferrand sur la pelouse du Castres Olympique.
On rappelle que ce matin, les Bleus du 15 de France féminin se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde, c'est en Nouvelle-Zélande, elles ont battu le 15 d'Italie 39-3 grâce notamment à un triplé de l'ailière Johanna Grisé. Qualification donc dans le dernier carré pour l'équipe de France qui retrouvera la Nouvelle-Zélande, le pays hôte, meilleure nation du monde. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Amiche et Denis Charvet. Ce sera le week-end prochain. Demain, les deux autres affiches de ces quarts de finale mettent aux prises l'Angleterre à l'Australie et le Canada aux États-Unis. A priori, ça devrait nous faire une demi-finale entre l'Angleterre et le Canada. Mais vous le savez, comme chaque week-end, votre rendez-vous hippique, c'est l'heure du quintet. Et sur RMC, qui dit quintet dit quitta. On est à Compiègne aujourd'hui, la fin de la course avec toi, Fred.
Oui,
salut.
Bonjour Simon, bonjour à tous. Effectivement, il reste 1 km à parcourir dans ce quintet plus disputé dans la discipline de l'obstacle. Et c'est le numéro 2. L'animateur Uric Desobo qui est en tête de cette épreuve. Devant le favori, le numéro 1 Saint-Père. On a aussi le numéro 13 Ozaville qui est en bonne position. Devant le numéro 7 Lucky Dream. Il reste donc 800 mètres à parcourir. Encore deux obstacles à franchir. Ils sont dans le tournant final de cette épreuve. Et c'est toujours le numéro 2 Uric Desobo en tête. Mais il est notamment attaqué à son intérieur par le numéro 1 Saint-Père. On a aussi le numéro 13 Ozaville qui est en troisième position. Ensuite, on a Opi du Matin, le numéro 9 avec Lucky Dream, le numéro 7. Et le numéro 3 Dexter qui commence à prononcer son effort à extérieur et qui vient pour l'instant en quatrième position. Les voilà qui rentrent dans cette dernière ligne droite avec l'avant-dernier obstacle à franchir. Il est franchi donc en tête par ce numéro 1 Saint-Père avec à ses côtés le numéro 2 Uric Desobo. Pour l'instant, ils sont à la lutte alors qu'à l'extérieur on a un concurrent qui vient vite, c'est le numéro 13 Ozaville. Il reste à peu près 350 mètres à parcourir avec plusieurs chevaux qui luttent. Il y a à peu près 5 chevaux de front dans cette avant de franchir de ce dernier obstacle. C'est toujours ce numéro 1 Saint-Père qui le franchit en tête, attaqué par le 13 Ozaville et le 12 Eximia qui fait toujours l'hippodrome de Compiègne qui attaque, et c'est le numéro 12 Eximia qui prend l'avantage à 100 mètres du poteau. Le numéro 12 Eximia qui s'envole vers le succès et il reste quelques encablures à franchir, et c'est le numéro 12 Eximia qui va s'imposer dans cette épreuve. C'était l'une des favorites de la course qui gagne donc brillamment cette course. Elle a patienté avant de venir
venir prononcer son effort et l'emporter facilement. On a ensuite des concurrents qui sont bien comportés. Le numéro 13, Ozaville, qui va prendre la deuxième place devant le favori, le numéro 1, Saint-Père, dans cette épreuve. Donc le 12 s'impose à 7,20€. Ensuite le 13, deuxième, la troisième place pour l'As. Quatrième position pour l'animateur, le numéro 2, Uric des Obos. Et la cinquième place, non loin de ses chevaux, pour un concurrent, le numéro 8, Pinacle. Je récapitule l'arrivée au provisoire. 12, 13, As, 2 et 8.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup, Fred Kita, pour cette arrivée du Quintet. Vous vivez évidemment le meilleur des courses hippiques chaque week-end sur RMC. Dans un instant, on va parler football, on va parler top 14. Évidemment, c'est la suite de l'Intégral Sport jusqu'à 16h. On est en compagnie de Denis Charvet et d'Arnaud Valadon au stade Pierre Fabre. L'ouverture de la 9e journée de top 14, Castres-Clermont. Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a fait Anthony Bello là?
Eh ben, la pénalité est passée à gauche. Pourtant, elle était sur la ligne des 22 mètres, légèrement à gauche, bien placé. Et Denis qui parlait, voilà, du manque de justesse du jeu au pied des Clermontois depuis le début de la partie. Et ben là, c'est 3 points qui partent à la poubelle pour les Clermontois. Voilà, ce vent qui.
Ouais, mais il n'est jamais facile. Parce, oui, effectivement. Parce que quand tu es
face au vent,
il faut forcer son coup de pied. Et parfois en le forçant, mais tu le mets pas forcément au milieu des perches. Donc c'est ce qui est, je pense, c'est ce qui s'est passé pour Anthony Bello.
Du coup, le score, mon cher Arnaud,
il n'a pas bougé. 6-0 et 20 minutes de jeu ici à Pierre Fabre.
La suite de cette rencontre, ouverture de la 9e journée de top 14 entre Castres et Clermont au stade Pierre Fabre. Dans un instant, dans l'Intégral Sport, les scores du 7e tour de Coupe de France et puis projection sur les rencontres que vous suivrez en multiplex autour de Flora Moussy tout à l'heure. Ces rencontres de top 14, évidemment, tout ça, c'est dans un instant sur RMC. L'Intégral Sport revient.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
15h27, vous êtes bien sûr RMC, c'est le retour de l'Intégral Sport. On est en direct jusqu'à 16h, heure à laquelle on passera la balle à Flora Moussy pour la suite de votre programme et notamment un multiplex de top 14 sur lequel on se projettera dans un instant. On n'oublie pas le 7e tour de la Coupe de France, l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 ce samedi. Valentin Jamin est avec nous, on fera un point score dans un instant et puis le top 14 a déjà commencé cette 9e journée avec la rencontre entre Castres et Clermont au stade Pierre Fabre où on va retrouver tout de suite Arnaud Valadon. Arnaud, où en est-on? Décision arbitrale un petit peu contestable il y a quelques instants. Hein.
Un carton jaune contre le pilier droit de l'ASM, David Koubriachvili, le géorgien, pour un contact de l'épaule du géorgien directement sur la tête de Filippo Nacuzzi, le fidjien, qui est même sorti sur protocole commotion. Et Monsieur Reynal, après analyse et arbitrage vidéo, a décidé de sortir le carton jaune et non le carton rouge. Alors c'est peut-être un peu moins violent. Que Wardy sur Dupont le week-end dernier, mais bon, évidemment à Pierre Fabre on n'est pas content, mais il y avait quand même ce geste où
non, mais il y a pas de geste.
Denis n'est pas d'accord.
Mais non, mais je suis pas d'accord du tout. Mais puis à force, c'est moi ça me pose un vrai problème sur la règle qu'il faut absolument changer, parce que là c'est le castré qui vient qui se baisse
en percussion,
qui se baisse, alors que le Clermontois est statique, il peut rien faire d'autre que de le recevoir en pleine figure presque. Donc on dit que c'est l'ordre qui l'a mis l'épaule dans la tête, alors que c'est l'inverse, c'est comment dire, c'est le castré qui vient s'empaler. Donc double peine, pénalité, carton jaune. Heureusement qu'il n'y a pas carton rouge, parce qu'alors là ça aurait été le bouquet, hein. Donc moi je ne comprends pas cette règle, il faut revoir cette règle. Je sais qu'avant le rugby il se pose la question de peut-être de mettre un carton orange un jour. Quand je dis orange, ça va être un carton de 20 minutes.
On embrasse Roland Courbis, évidemment, bien sûr, Arnaud, on y a tout pensé.
Mais en tout cas, non seulement il n'y avait pas rouge, mais je ne sais pas ce qu'il n'y avait pas jaune.
Après, il y a deux interprétations, effectivement. Tu vois Nacuzzi arriver à fond, même s'il était un petit peu ralenti sur Koubriachvili, et Koubriachvili qui fait pas un peu l'effort de se baisser.
Oui, il ne peut pas faire l'effort, il est pris dans un. Comment te dire, il est statique, il ne peut pas aller à gauche ou à droite, puisqu'en plus, il fait 120 kilos, tu ne vas pas lui demander de se déplacer rapidement. Non, je crois surtout qu'il y a des cas comme celui-là où tu prends en compte quand même la position et du défenseur. Puisque souvent tu te dis, oui, le défenseur, c'est celui qui est sanctionné tout le temps. Donc là, je suis désolé, il n'a pas à être sanctionné. Enfin bon, mais encore une fois, c'est la règle. Hein.
On comprend la logique, Simon, effectivement, de ton argument, Denis. Effectivement, ça a été revu à la vidéo. Je pense que c'est toujours la sécurité, la santé des joueurs qui est.
Oui, mais sauf que là, le Clermontois n'est pas responsable.
Le Clermontois pouvait difficilement prendre le castré plus bas. En tout cas,
donc 6-0 pour le CO. L'ASM qui est à 14. pour encore 5 minutes. Et il y a eu quelques blessures, notamment Santiago Arata, le demi de mêlée du CO pour saignement. Il n'est toujours pas revenu. Et puis on a Nakosi qui est sorti sur protocole commotion suite à ce choc. Mais là, ce sont les Clermontois, même à un de moins, qui sont dans les 22 du CO.
Dangereux, ils avancent.
Et attention, Anthony Bello, le petit jeu par-dessus et un arrêt de volée demandé par Julien Dumont.
Mais que c'est mal joué, t'es dans l'avancée, tu peux insister. Et là, il se.
Et quel beau coup de pied derrière de Dumont sur l'arrêt de volée. Et il va obtenir une touche juste avant les 22 de Clermont. Autant les Clermontois ont du mal avec ce vent, autant les Castrés, évidemment, ils sont chez eux. Non, ils savent.
Quand t'es devant, t'es dans l'avancée, comme les sont les Clermontois, que t'as ton ouvreur.
Que t'avances, tu percutes, ouais.
Qui te tape un coup de pied dans les bras de l'arrière et que tu reprends. 4 mètres derrière, je vais te dire que là, t'es pas content.
Le 2 du Charvet 3 quarts centre serait allé faire une petite cassée d'oreille à ce moment-là.
Non, mais surtout quand t'es contre le vent, tu gardes le ballon. Tu gardes le ballon jusqu'à ce que tu vas chercher la pénalité ou tu vas jusqu'au bout, mais tu rends pas le ballon. Là, on rend le ballon alors qu'on est 22
sur mètres, un temps fort.
Sur un temps fort, on est dans l'avancée, c'est le pire pour les avants.
Ah, Bello qui a raté une pénalité face au Perche qui a pris cette.
Ça aurait permis un match nul possible, hein, parce que là, 6-0, c'est compliqué.
Mais c'est ça, lui, ça va.
Non, mais en plus, là, à 14 contre 15, Clermontois, ils bougent les Castrés. Ouais. Hein. Mais ils sont pas au mieux, les Castrés. Hein.
Non, mais les Clermontois manquent de précision dans les 22 mètres. Hein. Ils ont concédé deux pénalités, c'est pour ça qu'il y a 6-0 pour le CO. Et quand ils sont en attaque, ils relâchent des ballons. Et attention, peut-être, avec Raka qui est servi sur son aile, il a essayé un jeu au pied, mais il a buté directement sur un joueur du CO. Et derrière, le gros plaquage, ils sont quand même là.
C'est pas ce qu'il a fait de mieux, Raka. Son jeu au pied. Mais bon, c'est reparti pour les Clermontois.
Ouais, avec Julien Dumora justement, qui tape à suivre pour lui la grosse chandelle. Et oh, il était pas loin de récupérer ce ballon, et finalement pas d'en avant. Ça va être récupéré par les Clermontois un peu avant leur 22 mètres. Ils vont essayer, mais c'est un petit peu brouillon. Ouais. Et ça essaie de jouer. Et attention, l'essai! Oh, quelle erreur clermontoise! Et l'essai du CO, signé Gaëtan Barlot, le talonneur non retenu dans la liste des 42 par Fabien Galthié. J'ai pas vu le Clermontois qui a voulu jouer au pied, c'était un avant. Sauf qu'il s'est fait attraper par la patrouille, il a relâché ce ballon et il a offert un boulevard. Gaëtan Barlot, le talonneur du CO, qui est venu aplatir entre les perches. Quelle erreur des Clermontois qui paie cash la moindre erreur dans cette partie. Il y a désormais 11-0 et une transformation facile à suivre pour le CO à 12 minutes de la mi-temps.
Ils sont tous en jeu, les Castrés de 5 mètres, mais c'est pas grave. On dit rien, écoute, l'arbitre, il dit rien, c'est tant mieux pour eux. Alors, il y a à peu près 3 mètres. Mais bon. Quel est ses cadeaux, quelle est ses casquettes, comme on dit. Mais ça fait 7 points.
13-0. C'est passé.
Voilà, parce que la transformation vient de passer 13-0 donc pour 4 sur sa pelouse, qui confirme que.
Ouais, mais ce qui est terrible, je reviens à ce coup de pied d'Anthony Bello qui a des incidences, des conséquences terribles.
Et oui, c'était il y a 2 minutes à peine, effectivement, une décision discutable de l'ouvreur Clermontois. Castres, bien parti donc sur sa pelouse en ouverture de cette 9e journée de top 14. Micro ouvert pour toi, Arnaud Valadon, depuis le stade, avant de se projeter sur les rencontres qui vous attendent à partir de 17h sur l'antenne de RMC. On passe du côté du ballon rond, 7e tour de Coupe de France, l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Où en sont les clubs pro, mon cher Valentin Jamin?
Alors, on approche de la fin, notamment pour le Paris FC, qui devrait se qualifier. En tout cas, le Paris FC mène 2-0 sur la pelouse des Ulysses, donc à un quart d'heure de la fin, doublé de Warren Kadi. Niort mène toujours 1-0 sur la pelouse de Mérignac. Et Sochaux se donne de l'air en ouvrant le score à domicile face à Hombourg O, club de Régional 2, donc de 7e division. Sochaux qui a été accroché. Il reste 13 minutes dans cette partie. Il y a des matchs qui ont débuté également à 15h, donc on joue la demi-heure de jeu entre notamment Orvault et Laval. Et surprise, le club de Ligue 2, Laval est mené 1-0 face au club de Régional 1, Orvault. Pau mène plutôt tranquillement de son côté 2-0 face à Salinière Aigues-Mortes, club de National 3-0-0 entre Saint-Etienne et Rodez notamment. Et Grenoble se fait aussi surprendre, club de Ligue 2 à l'extérieur face à Ilzac Modenheim. Voilà peut-être les premières surprises dans cette édition de la Coupe de France.
Vous ne manquez rien des scores du 7e tour de la Coupe de France, l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Valentin, on refera un point évidemment régulier avec toi sur l'antenne de RMC dans quelques instants. On parlera top 14, projection sur les matchs qui vous attendent en multiplex comme chaque samedi sur l'antenne de RMC. Le temps pour moi de vous rappeler que l'équipe de France féminine de rugby est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire. C'était très tôt ce matin. Décalage horaire oblige face aux 15 d'Italie. Victoire 39-3. France-Nouvelle-Zélande le week-end prochain. L'arrivée du Quintet, vous l'avez vécu comme chaque week-end. C'était à Compiègne. 12, 13, 1, 2 et 8. Et puis le rendez-vous du week-end dans le PAF français, hein, n'ayons pas peur des mots, dans Bartoli Time, votre nouveau show le dimanche 19h-20h. Novak Djokovic, invité exceptionnel à l'occasion effectivement du Masters 1000 de Paris-Bercy qui démarre ce week-end. Vous ne bougez pas, 15h35 sur RMC, l'Intégral Sport revient dans un instant, on est toujours en compagnie de Denis Charvet. On va se projeter sur les rencontres qui démarrent à 17h, la 9e journée, la suite du Top 14. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Simon Dutin.
À 15h38, vous êtes bien sûr à RMC, c'est l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 16h avant de faire la passe à Flora Moussi pour la suite du programme de l'après-midi et notamment du Top 14. La 9e journée qui a débuté du côté du stade Pierre Fabre. On est toujours en compagnie de Denis Charvet, notre membre de la Dream Team, et d'Arnaud Valadon sur place dans le Tarn. Arnaud, où en est-on ?
7 minutes avant la mi-temps, 13-0 pour le Castres Olympique face à Clermont. Les Clermontois qui sont revenus à 15 après la fin des 10 minutes suite à ce carton jaune de Koubri Ajoili. Également retour de Protol Col commotion pour Philippe Nakosi. L'ailier fidjien chaleureusement applaudi pour son retour par Pierre Fabre. Et ce score donc de 13-0 pour le CO face à Clermont.
À la suite du Top 14 comme chaque samedi, multiplex sur l'antenne de RMC. Ce sera à partir de 17h autour de Flora Moussi. On va faire un petit tour des stades avec les hommes qui nous commenteront ces rencontre tout à l'heure sur l'antenne. On démarre par le GGL Stadium, comprenez le stade de Montpellier, champion de France en titre, qui accueille le stade français. C'est Béranger Tournier qui vous commentera la rencontre. Salut Béranger.
Salut Simon, salut Denis, salut à tous.
Salut. Béranger, mets-nous un petit peu l'eau à la bouche. Pourquoi faut-il s'intéresser à la rencontre que tu as l'honneur de suivre ?
Eh bien Simon, parce que c'est une très très belle affiche qui nous attend cet après-midi au GGL Stadium. Deux équipes qui sont sur des dynamiques complètement différentes. Hein. On a d'un côté le Montpellier Euro Rugby qui souffre ces dernières semaines en grande souffrance. Les Montpellierains, 4 défaites consécutives pour les joueurs de Philippe Saint-André, battus le week-end dernier sur la pelouse du Racing. Défaite 38-31. Rendez-vous compte, hein. Il faut remonter au 24 septembre pour retrouver trace d'une victoire montpelliéraine. C'était ici même sur la pelouse du GGL Stadium face à Pau. Victoire 43-17 des joueurs de Philippe Saint-André. Et depuis, ça a été très très compliqué pour les Héraultais qui seraient très inspirés de se relancer, de relancer une série positive cet après-midi devant leur public. Mais ça sera pas simple, ça sera même pas simple du tout, puisque en face c'est le Stade Français. On a beaucoup parlé, hein, ces derniers jours, ces dernières semaines de l'avenir de Gonzalo Quesada. Et bien, force est de constater que ça a soudé le groupe. Ça a vraiment solidifié ce collectif qui reste sur 3 victoires.
Et c'est clairement toi,
Arnaud Valadon, Pierre Fabre.
Avec cette grosse séance de pick and go et Monsieur Rénal qui a levé le bras pour accorder cet essai. Alors est-ce qu'il va revenir derrière avec un arbitrage vidéo ? Pas sûr. En tout cas, le ballon, semble-t-il, était aplati sur la ligne. Ça fait suite à un ballon porté sur une touche. La puissance, mais vraiment puissance avec un gros P des Clermontois qui ont enfoncé les Castrais jusqu'à la ligne d'essai. Et Monsieur Rénal va quand même regarder peut-être un petit coup la vidéo avant de valider définitivement cette réaction clermontoise à 5 minutes de la mi-temps. Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Rénal ? Il hésite. Non, bon, pour l'instant, on va dire que c'est bon et la pénalité pour la transformation pour Anthony Bello. Dans un instant, 13-5 et peut-être 13-7 à suivre.
Bon, Denis circonscrit, rien à ajouter.
Non, mais attention Castré, parce que je les trouve très, très bons aujourd'hui, les Clermont-Trompe, après quelques déchets dans le jeu, mais costaud devant.
Ah, surtout qu'ils viennent de passer 10 minutes en infériorité numérique. Ouais. Belle réaction de leur part, effectivement. Bello qui va passer à la transformation, l'essai est donc confirmé. Je remercie Béranger Tournier, on t'a un tout petit peu coupé la chic, on avait dit l'essentiel.
Aucun problème, on a dit l'essentiel, exactement Simon.
Montpellier surprenant 11e face au Stade Français, surprenant 2e. C'est vrai qu'on n'aurait pas parié ça en début de saison. Denis, très rapidement,
qu'est-ce que tu flaires la pression est sur les Montpellierens. Oui.
4 défaites consécutives, Béranger le rappelé.
Et puis le Stade Français se déplace avec une belle équipe, notamment devant, qui peut contrarier Montpellier. Donc c'est des matchs à très gros enjeu pour Philippe Saint-André et les siens.
Bon, écoute, réponse à partir de 17h, un match évidemment alléchant et notamment lié à ses positions un petit peu surprenantes au classement des deux équipes. Direction stade Marcel de Flandre, où La Rochelle accueille la section paloise, toujours à partir de 17h. Romain Asselin, les yeux, la voix, les oreilles de RMC pour cette rencontre. Salut Romain.
Salut, salut.
Salut.
Romain, bah, écoute, même tarif hein, que pour Béranger. Donne-nous une raison, une ou plusieurs, de s'intéresser à cette rencontre.
C'est quoi? Je vais te plier le game en trois points. Le
j'aime
premier,
bien.
C'est
j'aime
que
bien quand
si
ça
vous voulez
ça.
Voir du spectacle, c'est ici que ça se passe. Chez Marcel, où la section a l'habitude de prendre des volets. On regarde sur les dernières saisons.
Doucement avec la section.
Il y a eu un 44-14, un 51-27, un 71-21. Là, ça te fait mal, hein, ça, Simon. La plus lourde défaite de l'histoire de la section en top 14, c'était ici en 2019 à Marcel de Flandre. La deuxième raison pour laquelle il faut regarder ce match, c'est qu'on a hâte de voir le comportement du champion d'Europe, La Rochelle, sans certains de ses big men. On pense aux Bleus qui sont restés à Marcoussis, Aldrit, Antonio, des Danti aussi, Bourgarit et Tanga. Et puis la troisième raison, c'est que c'est jour de retrouvailles entre la section paloise et ses ex, avec Quentin Lespieux, le talonneur. Et puis surtout, on pense à Antoine Astoy, l'enfant du Béarn qui est parti à l'intersaison, qui est arrivé dans une équipe qui joue des titres, La Rochelle, et qui évidemment a coché ce match depuis le moment où le calendrier est sorti. Voilà.
La Rochelle Pau, mon cher Denis, La Rochelle plus impactée que les saisons précédentes par les doublons.
On peut le penser, oui.
Est-ce que tu es sur la même voie que Romain? Tu penses que ça va dérouler face à la section?
Il risque d'avoir du spectacle et pas mal d'essais. Moi, je le sens. Donc, beaucoup de points, mais après, dérouler, oui, La Rochelle est impressionnant. La Rochelle survole un petit peu ce début de championnat et collectivement, ouais, on sent que ils ont marqué ce début de saison du top 14. Donc, oui, avantage à La Rochelle et Pau est un petit peu dans le dur.
Romain, hein, au commentaire de ce La Rochelle section paloise à suivre en multiplex à partir de 17h sur AMC. À tout à l'heure. Romain, la troisième rencontre à suivre dans le multiplex. Multiplex à partir de 17h, c'est Brive Racing 92. Ce sera sous les yeux de Damien Tardieu au stade Amédée Domenech. Salut Damien.
Salut Simon, salut Denis, salut
Damien.
Tout le monde.
Allez, bah, tu connais le principe, hein. Mets-nous un petit peu l'eau à la bouche avant cette rencontre.
Bah, pourquoi il faut suivre ce match? Parce qu'entre l'équipe qui est 14e et dernière à domicile, qui a déjà perdu 3 fois à la maison, et l'équipe qui est avant-dernière à l'extérieur, qui a déjà perdu 4 fois en 4 matchs, bah, il y aura du suspense. Forcément, c'est vrai que ce sont deux équipes qui ne vont pas forcément très bien, notamment les Brivistes. Ce sera aussi la première d'Arnaud Mella en tant qu'entraîneur en chef ici à Brive, lui l'ancien deuxième ligne, et puis une équipe de Brive donc, qui a besoin de points à domicile. Je le disais, 3 défaites déjà à domicile à Amédée Domenech, ce qui est franchement rare. Et puis le Racing n'a toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. Le Racing n'a jamais enchaîné 2 victoires en top 14 depuis le mois d'avril dernier. Bref, il y a besoin de points pour les Racingmen, seulement 8e du classement, qui doivent revenir dans le top 6. Bref, ça nous annonce un match avec beaucoup de suspense ici à Amédée Domenech.
Brive Racing 92, donc avec Damien Tardieu au commentaire, le régional de l'étape. Montpellier Stade Français, La Rochelle Pau, je vous en parlais. Il y a également un Perpignan Lyon dont vous suivrez le score en fil rouge. Bayonne Toulouse, c'est l'affiche de ce soir à 21h05. Brive Racing, une surprise à venir?
Mais alors, une surprise, j'espère pour eux, mais malheureusement le Racing a besoin de points, a besoin d'engranger des points, et ils vont, à mon avis, ils ont dû cibler ce match à Brive, même si Brive a des arguments à faire valoir, mais c'est un début de saison très compliqué où tu laisses beaucoup de jus moralement, physiquement, et t'enchaînes les matchs contre les gros, c'est jamais évident. Alors là, la pression elle est encore plus forte parce que tu joues à domicile et t'as plus le droit de perdre à domicile.
Le multiplex top 14 comme chaque samedi sur RMC, 4 rencontres donc dont vous ne manquerez rien à partir de 17h autour de Flora Moussy, Damien Tardieu à Brive, Romain Asselin à La Rochelle et Béranger Tournier du côté de Montpellier. Ça, c'est tout à l'heure. En ce moment, c'est à Pierre Fabre que ça se passe, au stade de Castres, où Castres et Clermont s'affrontent en ouverture de cette 9e journée. Arnaud Valadon, où en est-on?
20 secondes avant la sirène, 13 pour le Castres Olympique, 7 pour Clermont, avec cet essai de Baptiste Jauneau, le jeune demi-mêlé en filou qui est allé aplatir juste sur la ligne après plusieurs rugs consécutives et ses séances de pick and go pour les Clermontois. Mais attention, ils viennent de se faire sanctionner pour un soutien qui est arrivé sur le côté, et ça offrera peut-être 3 points de plus au CO et à Benjamin Urdapieta pour cette pénalité. Vous entendez la sirène, il est pas loin de la ligne médiane, plein axe, attention avec ce vent, mais ils ont l'habitude, ils sont chez eux, les Castrés, pour Urdapieta, l'Argentin, qui peut être à 100% au pied. Il a déjà passé 2 pénalités plus une transformation, 13-7 et peut-être 16-7 dans un instant. Évidemment, Pierre Fabre et ses 12 000 spectateurs font des messes basses pour ne pas déranger le buteur argentin et son pied. Diego gauche, c'est parti. Sous les yeux, il y a la distance et il y a la précision. Et voilà, sur ce score de 16-7, Castres qui a rentabilisé au maximum les quelques temps forts qu'ils ont eu. Mais pourtant, c'est Clermont, et Denis, tu le confirmeras, qui a fait la meilleure impression dans cette première mi-temps. Mais les Castrais sont devant de 9 points, 16-7.
Denis,
ils s'en sortent bien. Non, mais il a raison, ils s'en sortent très très bien. J'ai trouvé le Clermontois plus précis devant, et malheureusement, sur quelques actions, notamment la dernière où il y a ces trois points miraculeux pour Castres, où les Clermontois sont dans l'avancée, et ils sont mis à la faute bêtement, les Clermontois. Donc ça nous provoque. Peut-être qu'on va avoir une seconde mi-temps, où on risque d'avoir du suspense, parce que les Clermontois sont bien dans le match.
Et pas de match nul à la mi-temps, mon cher Denis. Tu l'auras. C'est toi-même, effectivement. Merci beaucoup, Arnaud. On te retrouve évidemment pour la seconde période de ce Castres Clermont. Je te confie au bon soin de Flora Moussi, qui prend la main dans un instant à partir de 16h. Bon, tu viens de nous donner un petit peu ton avis, Denis. Est-ce que tu penses très rapidement que Clermont peut inverser la vapeur en termes de score? Parce que tu le disais, ils ont fait ce qu'il fallait en première période.
Il y a un facteur à prendre en compte tout de suite, c'est le vent.
Le vent.
Donc le vent, il y a beaucoup de vent à Castres, et Clermont va avoir le vent dans le dos. Donc ils vont aller jouer ils vont faire une occupation de terrain dans le camp castré au pied. Et voilà, s'ils continuent sur leur lancée, ils peuvent réaliser l'exploit de gagner à Castres.
Vous ne manquez rien du top 14 comme chaque week-end sur RMC, cette 9e journée. Castres-Clermont, c'est la pause. Castres qui mène donc face à Clermont, un petit peu contre le cours du jeu. Vous l'avez compris, 4 rencontres qui vous attendent, dont 3 en multiplex à partir de 17h sur l'antenne de RMC. Montpellier, champion de France en titre, seulement 11e du top 14, qui reçoit un surprenant Stade français actuellement 2e. La Rochelle, section paloise, Romain Asselin nous a quasiment prophétisé un carton des Rochelais face au Béarnais. On verra bien ce qui se passe. Brive, Racing 92, Amédée Domenech. Voilà, toutes 3 rencontres à vivre en direct et en quasi-intégralité sur RMC. Tout à l'heure, on n'oublie pas PSG 3 à partir de 17h au Parc des Princes. Ce soir, Strasbourg, OM, c'est la 13e journée de Ligue 1, tout ça à suivre sur RMC. Et puis, évidemment, la Coupe de France, le 7e tour de la compétition. Et déjà, l'entrée en lice, Valentin Jamin, des équipes de Ligue 2, où en sont-elles?
Et on connaît les premiers qualifiés. Sochaux a réussi finalement à se débarrasser de Hombourg Haut, club de Régional 2, victoire 2-0 pour les Sochaliens. Paris FC, on est dans le temps additionnel, mène 3-1 sur la pelouse des Ulysses, donc ça devrait passer pour les hommes de Thierry Loret. Niort mène toujours 1-0, j'allais dire seul, face à Mérignac, club de Régional 1. Toujours un partout entre Wassel et Poissy. Mâcon mène toujours 1-0 face à Velay. Saint-Quentin dans l'Aisne est toujours mené à domicile 1-0 face à Yangen. Voilà pour les matchs qui avaient commencé à 14h. Et j'oublie de vous dire que Luciana est menée 1-0 face à Drancy.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter en Angleterre, mon cher ami, en Première Ligue, Manchester City s'est difficilement imposé sur la pelouse de Leicester, victoire 1-0 des Citizens. Actuellement, le Bayern Munich en Bundesliga mène 1-0 sur sa pelouse face à Mayence. Vous ne manquez rien de toutes les rencontres, de toutes les compétitions, c'est la promesse de RMC dans l'Intégral Sport qui continue dans un instant. Je vous laisse au bon soin de Flora Moussi, à qui je fais la passe dans un instant. L'Intégral Sport, le sport en live, le débat ne s'arrête jamais sur RMC. Salut.
RMC Intégral Sport.